Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Europe 1. Il est presque 5h du matin. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous sommes le mardi 15 décembre. Bonjour Ambline Roche, bonjour Paul Lassen.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien tous les deux?
Oui. Formidablement bien.
Toute l'équipe du 5-7 est là pour vous accompagner. Vous avez fait le bon choix. On va vous réveiller tranquillement, vous informer jusqu'à 7h. Et ces jours de déconfinement, ça y est, les déplacements libérés, plus besoin d'attestation, mais, et c'est un gros mais, le couvre-feu est désormais installé dès 20h ce soir. C'est notre quotidien toujours fortement impacté, et toujours ni théâtre, ni cinéma, ni musée. Le monde de la culture très remonté contre ces mesures. On en parlera à 6h40 tout à l'heure avec mon invité, l'artiste Bartabas, créateur de spectacles équestres, qui vient interpeller notamment le Premier ministre Jean Castex, qui est l'invité exceptionnel d'Europe 1 dans le 7-9 tout à l'heure. Jean Castex dans ce studio face à Sonia Mabrouk, ce sera à 8h15. Autre information ce matin, elle nous vient des États-Unis. Il est temps de tourner la page et de s'unir pour soigner le pays, dit Joe Biden, qui est, ça y est formellement élu président des États-Unis. Les grands électeurs ont voté. Il sera le 46e président. Tous les records de Donald Trump sont épuisés. Il sera en fonction, il entrera en fonction le 20 janvier. Paul, qu'est-ce que vous avez repéré, vous, ce matin?
Un bug mondial qui a touché le géant américain Google. Du coup, plus de Gmail, plus de YouTube. Les télétravailleurs ne sont pas bien. Et il y a aussi une autre partie de la population qui s'est retrouvée dans le noir, entre guillemets, c'est ceux qui ont des maisons connectées. Je vous fais un petit florilège.
Ah oui,
assez rigolo. Dans 45 minutes.
À tout à l'heure. Ambline, qu'est-ce qu'on écoute?
Il aurait été bien embêté s'il avait eu une panne, notre artiste, ce matin. On s'équipe de machines qui s'appelle Harp 2600 Mellotron. L'AKS, c'est un synthétiseur du début des années 70, des machines qu'utilise Jean-Michel Jarre en 1976 lorsqu'il compose Oxygène.
C'est la démocratisation de la musique électronique.
Exactement.
Oxygène dans les années 70. La partition d'Ambline. Le récit tout à l'heure à 6h25. Le reste du programme rapidement ce matin, et un autre coup de gueule, un autre malaise, celui des policiers, très en colère depuis qu'Emmanuel Macron a évoqué les contrôles aux faciès ou les violences policières. Par centaines, les policiers menacent de rendre l'uniforme. À 5h40, j'appelle l'un des représentants du syndicat Alliance, David-Olivier Reverdy. Et puis à 6h15, mon invité inattendu, on va parler rugby avec un créateur de mode ce matin, créateur mondialement connu, mais grand amateur du ballon ovale, vous verrez, au point qu'il a participé hier au tirage au sort de la Coupe du Monde. Voilà pour le programme. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La pluie glisse vers les régions de l'Est, de sorte que, par définition, l'Atlantique et la Manche seront dégagés, en tout cas quelques averses, mais enfin un ciel où les pluies ne seront que provisoires, alors que dans les régions de l'Est, eh bien, elles vont se multiplier et elles vont persister sur le flanc Est. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure, car c'est vraiment assez conséquent. Les températures maximales entre 11 et 14 degrés.
À tout à l'heure Laurent.
Europe Matin.
Le 5-7.
Sébastien Krebs.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Tout de suite, votre premier journal. Il est 5h.
Ce sera une réforme constitutionnelle en un article. Constitutionnellement, elle doit d'abord passer par l'Assemblée nationale, puis le Sénat. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum.
Emmanuel Macron valide l'idée d'un référendum, donc, pour inscrire dans la Constitution la protection du climat. Reste à obtenir tout de même l'accord des députés et surtout des sénateurs. Dès aujourd'hui, fini les attestations en journée, mais fini aussi la possibilité de faire ses courses ou de se balader après 20h. Et puis, un opéra, 9 symphonies, 32 sonates pour piano, 500 œuvres au total. Beethoven, toujours aussi célèbre aujourd'hui, 250 ans exactement après sa naissance.
À suivre, les sports, la presse du matin et puis les doigts dans l'assiette avec nos agriculteurs. Nous serons en Normandie ce matin. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'affaire Benalla avait stoppé net le projet de réforme constitutionnelle il y a 2 ans et demi déjà. Voilà que la Convention citoyenne pour le climat relance le processus. Emmanuel Macron a en effet accepté la proposition que faisaient les 150 citoyens tirés au sort d'ajouter dans l'article 1er de la Constitution les notions de biodiversité, d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.
L'échange hier soir a été long, parfois tendu, entre le président et les membres de la Convention climat. Mais Jean-Rémy Baudeau, c'est bien cette décision que l'on retient ce matin.
Oui, et cette annonce a été faite à la toute fin de ces 4 heures d'échange, au détour d'une simple phrase.
Sur l'article 1er de la Constitution, ce sera une réforme constitutionnelle en un article. Constitutionnellement, elle doit d'abord passer par l'Assemblée nationale, puis le Sénat, et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum.
La salle en est restée silencieuse, comme interloquée, avant d'applaudir. Et pour briser ce moment de doute, le président a même été obligé de préciser.
Je ne peux pas être plus clair.
Emmanuel Macron acte ainsi une réforme constitutionnelle proposée par la Convention citoyenne. Mais avant le référendum, il faudra que l'Assemblée et le Sénat votent le même texte, à moins que la droite sénatoriale ne s'y oppose. Une hypothèse repoussée par l'Élysée hier soir. Vous pensez vraiment qu'ils vont refuser une demande unanime des Français sur l'écologie, s'amusait un conseiller. Chacun prendra ses responsabilités, confiait par ailleurs un ministre. Hier soir, Emmanuel Macron a réussi un double coup politique, satisfaire les membres de la Convention citoyenne et repasser la responsabilité de ce référendum au sénateur.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Alors Grégoire Frati, qui est l'un des 150 citoyens de cette Convention climat, salue ce choix d'Emmanuel Macron.
On a mis le président au défi justement de faire ce référendum sur la modification de l'article 1, parce que nous on considère que les Français doivent pouvoir donner leur avis sur à quel niveau ils mettent l'environnement, la biodiversité, le climat dans leur quotidien et à quel niveau ils veulent mettre dans leur pays. Donc voilà, on demande un référendum sur cet article 1 et le président a simplement répondu oui. Donc c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. Alors je vais pas cacher que de temps en temps, il y a certaines déceptions sur des mesures un petit peu phares. On sentait que le gouvernement parfois naviguait dans des réponses, dans des arbitrages qui n'étaient pas encore rendus, comme sur la rénovation des bâtiments ou sur des choses qui n'étaient pas forcément à la hauteur de l'attente des citoyens. Les réponses étaient présentes, on a pu comprendre un petit peu mieux la position du gouvernement et on a parlé du fond. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est loin des petites phrases. Non, on est sur du concret, sur les mesures, sur ce qui aura fondamentalement un impact sur les émissions de gaz à effet de serre.
Grégoire Frati, co-président de l'association Les 150, il réagissait au micro européen de Claudia Bertram.
Notre quotidien va encore changer à partir d'aujourd'hui, avec des règles plus strictes encore en soirée, mais en même temps plus souples dans la journée.
Oui, le deuxième confinement s'arrête, mais le couvre-feu est de retour. Alors Justin Morin, on est bien d'accord, hein, les attestations pour aller et venir, en tout cas en plein jour, c'est terminé.
Oui, ça y est, ce matin, plus besoin de cocher une petite case pour aller travailler, pour aller faire une course ou tout simplement pour aller vous promener. Les attestations, c'est fini pour la journée. Vous pouvez aussi de nouveau vous déplacer d'une région à l'autre pour partir en vacances par exemple. Plus besoin d'avoir un motif particulier. Mais ce soir, dès 20h, c'est le retour du couvre-feu. Il faudra rester chez vous. Toutes les sorties sont interdites jusqu'à 6h du matin. Soyez donc prévoyants pour vos achats, par exemple de nourriture. Après 20h, ce ne sera plus possible d'aller chercher un plat emporté. Il y a quand même des exceptions pour sortir la nuit. Et là, on retrouve les mêmes dérogations qu'au mois d'octobre dernier. Quelques exemples. Si vous terminez le travail après 20h, si vous devez sortir pour raison médicale, pour une mission d'intérêt général comme une maraude, ou simplement pour promener votre animal de compagnie. Autre situation, si vous prenez un train qui arrive après 20h, votre billet pourra vous servir de justificatif. Dans tous les cas, il faudra vous munir d'une attestation. Pour le réveillon de Noël, pas de couvre-feu, ce sera l'unique exception. Pour le nouvel an, toute fête ou rassemblement sera interdit sous peine d'une amende de 135 euros.
Eh bien, bonne année avec ça. Merci Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
5h05 sur Europe 1. Ça ne s'est pas bousculé hier au Havre. Hein. Loin de là, pour le lancement de cette campagne de dépistage massif, 2100 personnes sont venues se faire tester dans les 20 centres mis en place tout spécialement.
Oui, alors c'est 4 fois plus qu'une journée habituelle, mais à l'échelle de l'agglomération et de ses 270 000 habitants, on est très loin de pouvoir tirer un premier enseignement sur la circulation du virus aujourd'hui. L'autre enjeu, c'est de mieux isoler les personnes positives. Jean-Gabriel Bourgeois est au Havre pour Europe 1.
Testé, alerté et maintenant mieux protégé. L'enjeu de cette campagne de dépistage massif, c'est la gestion de l'isolement des cas positifs. Un protocole spécifique est établi pour ceux qui peuvent s'isoler à domicile. Germain Toubol dirige l'un des centres de test.
Les personnes sur le centre vont lui expliquer les gestes à faire chez elles pour respecter les gestes barrières. Comment partager la salle de bain, comment manger dans sa chambre pour réussir à vivre avec sa famille.
Un accompagnement individualisé est mis en place. Léo Jeannin de la protection civile.
Personne habite seule chez elle, peut-être qu'il faut lui livrer des courses pour pas qu'elle sorte et qu'elle contamine au supermarché les personnes.
Les quelques cas positifs détectés hier sont tous rentrés chez eux, aucun n'a demandé un hébergement à l'hôtel, des chambres sont réquisitionnées. Le maire du Havre, Édouard Philippe, résume la stratégie.
Un, ils vont s'isoler et protéger leurs proches. Ils vont être un élément de la réponse collective et donc de la lutte collective contre l'épidémie. Et trois, nous allons les accompagner pour que cette période d'isolement ne soit pas trop pénible ou trop dure.
Un isolement pas contraint donc, mais indispensable pour la réussite de cette opération avant l'arrivée des vaccins. Le Havre, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Alors l'utilité, l'efficacité de ces dépistages massifs en question, les mesures sanitaires, l'enjeu de la future campagne de vaccination, ça fait beaucoup de questions à poser au Premier ministre Jean Castex, qui est l'invité exceptionnel d'Europe 1 tout à l'heure à 8h15. Il sera face à Sonia Mabrouk pour une demi-heure d'interview.
Autre dossier brûlant du moment qui sera sur la table de cet entretien ce matin, la double question des violences policières et du malaise de la police, dont les agents se sentent parfois abandonnés par l'exécutif. Depuis 10 jours, ils manifestent un peu partout dans le pays. Guillaume Bien, on peut parler d'un vrai ras-le-bol chez les policiers.
Oui, c'est une colère quotidienne des policiers partout en France. Ce que l'on entend là, c'était lors d'un rassemblement à Nantes avec les voitures de service en dépit des rappels et des menaces de la hiérarchie. Opération à Paris, Montpellier, Reims, Albi, Toulouse. Des ralentissements sur les routes pour distribuer des bonbons à Marseille, à Dijon ou encore ceci. Oui, c'est bien la musique des bisounours lors de ce pseudo-contrôle d'automobilistes sans aucune verbalisation. Dernière action en date, hier à Grenoble, 132 policiers ont déposé une demande de rupture conventionnelle. Première étape pour quitter la police, explique Yannick Bianchieri, délégué Alliance en Isère.
Ils font un premier rapport pour demander combien l'administration est prête à leur donner s'ils quitteraient la maison police pour faire une reconversion. Les collègues n'en peuvent plus, ils sont à bout. La police a toujours été là pour protéger la population, que ce soit toutes les manifs, les attentats, le Covid. On a toujours appelé sur la police. Par contre, il y a une intervention de police toutes les secondes. On en sort une de son contexte et on refait tout le procès de la police en général. Donc le fait de dire que la police fait les contrôles aux faciès, que la police est violente, ça c'est les propos inadmissibles.
Ce sont effectivement les propos d'Emmanuel Macron que n'ont pas digéré ces policiers qui se défendent de tout racisme et violence systémique.
Merci Guillaume Biel, le chef du service police-justice d'Europe 1.
Il est né un 15 décembre, comme aujourd'hui, mais c'était en 1770. Il y a 250 ans, naissait un géant de la musique, le compositeur allemand Beethoven.
Oui, géant par sa renommée, par le fait qu'on reconnaisse en quelques notes, par exemple, l'hymne à la joie de sa 9e symphonie. Géant par son œuvre, 500 compositions. Alors ce matin, lors d'Autriche, vous nous faites découvrir l'une de ses partitions originales que renferme la Bibliothèque nationale de France.
Oui, dans la grande réserve, à l'abri de la lumière, se trouve un trésor, la partition originale d'une œuvre pour piano de Beethoven, la sonate Appassionata. Beethoven composait parfois dehors, au pied d'un arbre, et ce jour-là, il a plu. On voit les taches qu'a laissées la pluie sur le manuscrit. Et puis, un pli au milieu, Beethoven avait mis la partition dans sa poche. La feuille est couverte de notes, détaille Mathias Auclair, le directeur de la musique à la Bibliothèque nationale de France.
On voit la personnalité de Beethoven, c'est-à-dire que le Beethoven avec les cheveux dans tous les sens, un peu tempétueux, un peu le seul caractère aussi, avec beaucoup, beaucoup plus de ratures que chez Mozart, avec des ratures très, très nerveuses. Hein. Ça jaillit.
Plus le temps passe, plus Beethoven devient sourd. Il souffre énormément, de plus en plus reclus, presque misanthrope. Mais il montrera toujours dans sa musique que la vie doit être joyeuse et fraternelle.
Lors d'Autriche pour Europe 1.
Un spécialiste musique classique, bien sûr, dans le journal de François Geffrier. Sur Europe 1, il est 5h10.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports avec cette information de la nuit, ce rebondissement sur le Vendée Globe.
Charlie Dalin n'est plus premier. Le Normand de 36 ans menait le Tour du Monde à la voile depuis 3 semaines. Il est 3e ce matin, dépassé cette nuit au sud de l'Australie par Thomas Ruyant, nouveau premier, mais aussi dépassé par Yannick Bestaven, 2e, parce que Charlie Dalin a dû ralentir, victime d'une avarie. L'un des foils du bateau est endommagé. Les foils, vous savez, ces appendices sur les côtés du bateau qui permettent d'accélérer. On attend d'en savoir plus sur l'étendue des dégâts.
Le rugby à présent et cette question. France-Nouvelle-Zélande, d'accord, mais ce sera quand ?
Le sort a placé hier les redoutables All Blacks, adversaires des Bleus, dès le premier tour du prochain mondial organisé en France en 2023. Dès lors, les débats sont lancés. Faut-il jouer cette affiche clinquante dès le premier match, super produit d'appel, ou vaut-il mieux attendre et jouer ces Blacks en 4e et dernière rencontre du premier tour ? Le dernier mot reviendra au comité d'organisation du mondial qui va consulter notamment le staff des Bleus et bien sûr les joueurs eux-mêmes. Le jeune demi d'ouverture Antoine Dupont, quand il pense aux Blacks, salive déjà.
C'est sûr que c'est une équipe à part, c'est une équipe iconique qui a fait rêver des générations et des générations et qui fait encore rêver aujourd'hui tous les amateurs de rugby. C'est l'équipe de rugby la plus célèbre au monde et avec le palmarès le plus fourni. Et donc on les connaît aujourd'hui, on sait aussi le potentiel qu'ont les Français de pouvoir les renverser sur ces matchs de Coupe du Monde.
Et en foot, le Paris Saint-Germain retrouvera Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions. Match aller le 16 février en Catalogne. Le PSG rassuré hier après les examens de Neymar, touché dimanche soir à une cheville, on vous en parlait hier. Entorse, pas de fracture, 3 semaines d'indisponibilité. Les Lillois de leur côté retrouveront l'Ajax Amsterdam en 16e de finale de la Ligue Europa. Match aller le 18 février à Lille.
Alors vous le savez, les domaines skiables sont fermés au public, mais on parle quand même de ski pour les sportifs ce matin avec des larmes hier à Courchevel.
Oui, l'émotion à l'arrivée du géant en ski alpin de l'américaine Michaela Schifrin, d'abord victorieuse pour la première fois depuis janvier dernier, mais aussi l'émotion de Tessa Worley, la skieuse du Grand Bornan, 3e hier, enfin en podium, le premier depuis octobre 2019.
Ça fait du bien et là j'ai envie de retourner, j'ai envie de reskier et vraiment ouais, ça met un bon coup à la confiance. Maintenant bah, y a encore du travail, j'en ai conscience parce que les filles, elles skient super bien. Il y a un gros niveau en géant, mais c'est ça que j'aime aussi, c'est ce challenge.
À l'Euro féminin de handball au Danemark, les Bleus visent une demi-finale aujourd'hui. France-Suède, 18h15, dernier match du second tour. Un nul suffit aux Françaises pour rejoindre le dernier carré.
Le chiffre du jour.
101, les basketteurs de Villeurbanne, ceux du président Tony Parker, ont hier passé 101 points à leurs adversaires en 27e journée du championnat de France. Le Portel battu 101 à 66.
La page des sports complète chaque matin, c'est avec Jérôme Lacroix. À tout à l'heure.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et il nous reste à découvrir le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Pau. Et mon pari gagnant sera le 201 Alpha Risk, grand spécialiste du cross palois, sur lequel il totalise pas moins de 5 victoires, dont l'une obtenue dans cette même épreuve l'an dernier. Il va certes effectuer une rentrée après 9 mois d'absence, mais sachez qu'il est toujours très performant sur sa fraîcheur, comme me l'a d'ailleurs confirmé son jockey Félix de Gilles. Dès lors, il devrait pouvoir d'emblée s'imposer et justifier ainsi les bruits très favorables dont il fait l'objet depuis plusieurs semaines le matin sur les pistes d'entraînement. Notez bien, pour cet après-midi à Pau, réunion 1, dans la deuxième course, le numéro 1, Alpha Risk.
C'est noté, merci Thierry Léger, on vous retrouvera dans 20 minutes pour vos pronostics du jour pour le Quintet. À tout à l'heure.
Europe 1.
Il est presque 5h15 sur Europe 1. Bon réveil. Si vous nous rejoignez, on va ouvrir les journaux tranquillement et vous raconter les 3 histoires que nous avons repérées ce matin dans la presse. Ombline, qu'est-ce que vous avez repéré ce matin ?
Il pensait investir dans des places de parking, dans des chambres de maisons de retraite médicalisées. Les arnaques aux investissements ont explosé pendant le confinement avec des escrocs de plus en plus crédibles et organisés.
Oui, attention à ce que vous lisez sur Internet. On vous donnera quelques exemples et puis on vous donnera le résultat de ce baromètre du coût de la vie des retraités. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h15 sur Europe 1, fini le confinement. Voici le retour du couvre-feu dès ce soir, 20h et jusqu'à 6h du matin. Il ne sera plus possible d'aller faire la moindre course et même de sortir chercher un plat à emporter, ni même de faire du sport à cette heure-là. Le monde de la culture proteste contre la fermeture prolongée des cinémas, des théâtres et des musées. Des manifestations ont lieu aujourd'hui à Paris, place de la Bastille à midi, ainsi qu'à Marseille, Strasbourg, Lille ou encore Nantes. Je vous rappelle que le Premier ministre Jean Castex est l'invité exceptionnel d'Europe 1 tout à l'heure à 8h15. Et puis aux États-Unis, Joe Biden officiellement désigné président par les grands électeurs qui représentaient chacun les 50 États. Dans un discours cette nuit, il s'en est pris à Donald Trump, estimant que le président sortant a refusé de respecter la volonté du peuple et l'état de droit.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec autour de moi Ombline Roche et Paul Lassène. On commence par jeter un œil aux unes de vos journaux un peu partout en France. Sans surprise, c'est ce jour de déconfinement qui fait les gros titres. Déconfinement sans soulagement, comme le précise la Marseillaise. Vous lirez dans le détail tout ce qui change aujourd'hui dans la Dépêche du Midi, dans l'Union, dans l'Est éclair. Et notamment ce couvre-feu qui fait la une de l'Indépendant, du Républicain Lorrain ou encore du Courrier Picard. Du déconfinement au couvre-feu, l'interminable épreuve. épreuve, résume le Figaro. Et puis il y a les journaux qui tentent de s'échapper un peu. Nice Matin met un avion, un train, une autoroute à la une. Top départ, c'est le titre. La limite des 20 km est désormais supprimée. Et Midi Libre a listé les bons plans pour partir au soleil avec une photo de plage et de cocotiers à la une. Autre sujet ce matin, les négociations sur le Brexit à la une de La Croix. Les Anglais parlent au français, c'est le titre. Et puis un visage en première page de l'équipe, celui de Gérard Houllier, l'ancien sélectionneur des Bleus, l'ancien entraîneur du PSG ou de Lyon. Un cœur en rouge et bleu, titre le journal sportif pour lui rendre hommage. Voici maintenant les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Ambline, on commence avec vous. Et donc cet appel à la prudence, attention aux arnaques sur Internet.
Oui, avec comme catalyseur le confinement, hein. C'est dans le Figaro, des arnaques bien organisées, bien huilées et en guise d'hameçon. Les noms des grands groupes comme Bouygues, Vinci ou Korian, l'un des leaders dans les maisons de retraite médicalisées et les cibles des arnaques sur Internet sont des retraités avec un peu d'épargne et qui se retrouvent ensuite avec plus rien. Confinées chez elles, les personnes victimes d'escroqueries ont tué le temps en essayant de trouver la bonne affaire, comme Patrick qui a souhaité investir dans des places de parking à l'aéroport d'Athènes. Alors au départ, tous les signaux étaient au vert avec un site légal, un siège dans le Val d'Oise, un conseiller sympathique au téléphone et un chèque de plus-value qu'il encaisse le premier mois, pensant avoir flairé le bon coup. Il incite sa compagne à faire comme lui et puis plus de nouvelles. Et quand Patrick téléphone pour parler à son conseiller, eh bien on lui raccroche au nez et il a perdu 35 000 euros. Jacques, lui, en a perdu 85 000. Ce qui l'intéressait, c'était les chambres dans les EHPAD. On lui a fait miroiter un investissement en or en Espagne avec photos de chambres à l'appui. Les escrocs se sont fait passer pour le groupe Korian. Voilà, et le groupe qui, depuis, a porté plainte. Ces faux sites internet d'investissement vous disent que vous allez gagner de l'argent en investissant dans des maisons de retraite, donc dans des parkings, dans le vin, dans le bois et aussi désormais dans des containers de marchandises. L'autorité des marchés financiers voit les plaintes affluer de plus en plus, multiplie les mises en garde et en 4 ans, le préjudice global des arnaques aux investissements est estimé à 4 milliards d'euros.
Comment on sait si on doit se méfier ou si c'est un réel investissement?
Ben, je pense qu'il faut se renseigner, il faut recouper, il faut aller voir les sites. Alors c'est vrai que les sites parfois sont très bien faits, hein, c'est très dangereux, il faut être extrêmement prudent. Voilà. C'est dans le Figaro.
C'est dans le Figaro ce matin. Une question dans le Parisien aujourd'hui en France à présent. Combien cela coûte-t-il de vieillir et plus précisément de vieillir chez soi à la maison? Le journal publie un baromètre inédit, c'est la première fois qu'on évalue comme ça le montant des dépenses quotidiennes que doivent assumer les retraités de plus de 65 ans. La mutuelle, les soins dentaires, optiques, les aides à domicile, les aménagements parfois nécessaires à la maison, dans le salon ou dans la salle de bain, jusqu'aux dépenses du quotidien. C'est le site retraite.com en partenariat avec Silver Alliance qui a établi ce baromètre. Ils ont étudié trois tranches d'âge. Alors, il y a moins de 65 ans, les 75-85 et les plus de 85 ans. Et sans surprise, évidemment, plus on avance dans l'âge, plus il est coûteux de vieillir à domicile. Un retraité âgé de 65 à 75 ans, par exemple, dépense en moyenne chaque mois 584 euros. Entre 75 et 85 ans, cela monte à 740. Mmh. Et au-delà de 85, là, on fait du x2, même, 1836 euros. Avec des frais de santé et d'aide à domicile, bien sûr, qui explosent à cet âge. Ça veut dire que si on prend la retraite moyenne en France, c'est-à-dire 1300 euros, le reste à vivre d'un retraité, c'est autour de 800 euros jusqu'à ses 75 ans. Ensuite, ça baisse à 600 et au-delà de 85, il est totalement éliminé. On passe en négatif, il manque 400 euros pour financer le quotidien. Alors évidemment, tout cela est théorique, hein. Ce sont des moyennes, il y a beaucoup de disparités. Mais l'idée, c'est d'en faire donc un baromètre annuel pour surveiller les évolutions. Et quand on sait que 85% des Français veulent rester vivre et rester vieillir à domicile, mais il est évidemment essentiel de prévoir ses dépenses. Voilà ce qu'on explique dans ce dossier à lire dans Aujourd'hui en France ce matin.
Et le problème des maisons de retraite aussi, c'est qu'elles sont très très chères. Et parfois, les petites retraites des retraités ne peuvent pas combler ce qui est demandé par les maisons. Bref, c'est insoluble.
Bon, Paul, vous en êtes loin, vous, de la vieillesse à domicile pour l'instant.
Je crois.
voilà, c'est ça. On va parler des enfants.
Oui, alors une question posée par le Huffington Post que tous les parents d'ados se sont posés. Je me tourne vers vous, Ambline. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que tu fiches depuis des heures aux toilettes avec ton téléphone?
Ah bah il joue.
Tous
ah,
les alors. Parents ont assisté éberlués à la transformation faite par les plus jeunes de ce lieu d'aisance, de détente, même pour certains.
Il en faut deux maintenant dans une maison. Voilà, des toilettes.
C'est devenu un espace de vie ultra cocooning et on apprend ce matin donc, que le confinement n'a fait que renforcer la tendance. Une étude Opinionway a été réalisée au mois de novembre auprès de jeunes de 18 ans et plus. Alors, et si seulement 14% de la population passe plus de temps aux toilettes depuis le confinement, il faut savoir que le taux...
On fait des statistiques
oui, là-dessus. Le taux monte okay, à 34% pour les 18-24 ans, eux qui les investissaient déjà beaucoup avant la crise sanitaire. Alors qu'est-ce que ça donne en détail? Pour 45% des jeunes interrogés, les toilettes sont une zone refuge. Pour 40%, c'est un lieu qu'ils plébiscitent pour envoyer des SMS. Et surtout, en tête, c'est pour surfer sur les réseaux sociaux à 47%. Donc les jeunes, pour aller sur Twitter ou Instagram, ils s'enferment dans les toilettes. Vous allez me demander, mais pourquoi ils ne restent pas dans leur chambre? C'est plus intime, répond une lycéenne qui témoigne. Ah oui. Et c'est aussi le seul endroit où mes parents ne peuvent absolument pas rentrer. Un sentiment qui est validé par un sociologue interrogé dans l'article. C'est le lieu privé définitif. Il est à la fois hermétique au reste du monde, mais symboliquement hyper communicant. Les conversations qui s'y déroulent sont de l'ordre du journal intime. Oui, donc c'est fini, le petit livre dans lequel on écrit nos secrets et qu'on range dans la table de chevet maintenant. C'est dans les toilettes. Alors, est-ce que les WC sont en train de devenir une pièce de vie comme une autre ? Cet espace désavoué que nous, adultes, n'acceptons pas réellement a en effet été réapproprié de manière heureuse par les plus jeunes, tranche le sociologue interrogé. Je vous laisserai vous faire votre avis. Lieu de cocooning ou plus.
C'est vrai, il faut que le Wi-Fi capte bien dans
oui,
la
voilà,
pièce en question.
Problème mais... logistique aussi.
Non, mais avant, on lisait des BD et puis maintenant, on joue aussi. Hein.
Voilà,
ils
voilà,
jouent les
c'est
enfants.
Ça, c'est fini les magazines ouais, empilés les magazines. Sur le côté. Le pressing du jour
merci.
Avec Ambline Roche merci. Et Paul Lassen. Merci.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Il est 5h24 et c'est l'heure des doigts dans l'assiette. Bonjour Isabelle de Radiguès.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes notre éleveuse, cultivatrice dans le Calvados. Comment allez-vous avec ces fêtes qui approchent?
Eh bien, je me réjouis parce que les gîtes vont pouvoir ouvrir et donc il faut que je les prépare.
Ah oui, parce que vous avez donc des gîtes sur l'exploitation. Vous accueillez des touristes, ils vont pouvoir venir, ça y est, puisque les mesures des barrières de kilomètres sont levées à partir d'aujourd'hui.
Oui, c'était vraiment le suspense, surtout pour le réveillon. Donc on est très contents. Ce sont des gîtes, donc les personnes sont chacun dans leur maison, cuisine, et donc c'est pour ça qu'eux peuvent venir. Et par exemple, les chambres d'hôtes ne sont souvent pas ouvertes parce que les personnes doivent souvent aller déjeuner ou dîner dans les restaurants. Donc là, c'est vraiment une maison où une famille ou deux familles viennent et se retrouvent.
Mais vous accueillez combien de personnes comme ça?
Alors, j'ai trois gîtes, deux de 6 et un de 10. Dans celui de 10, ils seront une famille avec des enfants. Il ne faut pas être trop nombreux. Et voilà, donc ce sont trois maisons tout à fait individuelles, des petites maisons normandes qui sont au milieu de l'exploitation, dans une prairie et un peu plus loin, etc. Et les gens viennent un peu pour la campagne. On n'est pas très loin de la côte non plus, d'Auville-Trouville. Et ils aiment bien le fait que ce soit vraiment dans le cadre d'une exploitation.
Oui. Parce que vous les accueillez aussi dans votre travail au quotidien, vous leur montrez, ils peuvent venir à la traite par exemple?
Alors la traite on ne fait plus, mais j'insiste beaucoup sur le fait que c'est une vraie ferme. J'ai une dame déjà qui m'avait appelé un jour pour poser plein de petites questions et elle m'a dit est-ce que c'est une vraie ferme? Alors, je dis qu'est-ce que vous appelez une vraie ferme?
Mais oui, mais c'est pas juste.
Oui, c'est fausse ferme. Elle pensait à un enclos avec une chèvre et trois poules. Je dis non, c'est une vraie ferme. Parce que quand il y a des enfants, ils aiment beaucoup venir voir les animaux. Mais j'ai depuis quelques années, j'organise quelque chose que j'appelle, c'est pas très gentil et je sais pas si j'ai le droit d'utiliser l'appellation, l'agriculture pour les nuls. Et on part pendant 2-3 heures faire vraiment le tour de toute l'exploitation, culture par culture, dans les bâtiments, voir les machines, les animaux et les cultures, en fonction du développement, bien sûr, de la culture. Et je me rends compte, les gens, ils adorent ça, ils adorent. Et c'est passionnant parce qu'aujourd'hui, vous posez toutes les questions que vous voulez, même les questions qui fâchent hein, sur les pesticides, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un réel besoin. Et j'aime bien insister sur le fait que dans les gîtes. Il y a plein de choses à faire en Normandie, dans le Calvados, dans le Pays d'Auge, mais on peut aussi en profiter. Et si les gens restent une semaine, ou même un peu moins, et s'ils ont le temps, ils sont toujours contents de faire leur tour.
Voilà, chez Isabelle de Radiguès pour les vacances, on découvre et on apprend plein de choses. Et c'est vrai que c'est important et on a envie de savoir ce qu'on a dans notre assiette et de bien comprendre d'où viennent les produits. Et c'est important que vous partagiez ça aussi avec nous le matin sur Europe 1. À bientôt Isabelle de Radiguès, passez de belles fêtes.
À bientôt. À vous aussi, au revoir, merci.
5h27 sur Europe 1, bon réveil. Et on retrouve Laurent Cabrol pour cette météo. Laurent, on n'est pas encore débarrassé de la pluie. Hein.
Effectivement, Sébastien, les pluies basculent maintenant vers les régions de l'Est, de sorte que les contrées qui se situent près de l'Atlantique ou près de la Manche sont les premières libérées par les intempéries, avec à la fois quelques averses, mais aussi des petits vents. Mais l'impression ne sera pas trop désagréable. Dans le courant de la matinée, les éclaircies vont poursuivre leur petit bonhomme de chemin vers le nord, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, le centre et le Limousin. En fait, les régions que je vais citer maintenant seront celles qui seront les plus marquées par les intempéries. Lorraine-Alsace, Dijonais, région Rhône-Alpes, l'Auvergne, le bassin méditerranéen, le Midi-Pyrénées. Il y aura de la pluie et des pluies persistantes tout au long de la journée. Les températures restent relativement sympathiques, si je puis dire, compte tenu du temps qui fait et de l'humidité qui est en ce moment en train de poindre chez nous, entre 11 et 15 degrés. Ce sont, ce sera la fourchette du jour. Il en fera 12 à Paris, 12 à Toulouse, 12 à Châteauroux, Orléans et Laval.
Voilà, c'est précis. On vous retrouve juste avant 6h, Laurent. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez au réveil tout de suite, un nouveau journal avec Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Vous dire qu'on n'est plus à ça près, pour nous c'est une nouvelle mauvaise nouvelle.
C'est vraiment très très tôt. C'est ça le problème. Si nous coupons encore ça, c'est foutu quoi.
Déconfinement ensuite, fini les attestations, place au couvre-feu à 20h à partir de ce soir. Mauvaise nouvelle pour les restaurateurs qui feront moins de ventes à emporter. Emmanuel Macron valide un référendum sur le climat, il l'a dit hier soir aux membres de la Convention citoyenne. Mais il faudra l'accord du Parlement. La guerre est presque déclarée entre pêcheurs français et britanniques en attendant la fin des négociations commerciales sur le Brexit. Des navires de la Royal Navy pourraient patrouiller sur la Manche pour chasser les contrevenants. Et puis le mondial de rugby 2023 en France, la bataille du calendrier est lancée. Les villes se disputent la meilleure affiche.
Le fossé se creuse entre les policiers et l'exécutif après les propos d'Emmanuel Macron sur les contrôles aux faciès et sur les violences. Après le journal, je reçois David-Olivier Reverdy du syndicat Alliance. Il veut interpeller le Premier ministre Jean Castex qui est ce matin l'invité d'Europe 1. Il sera dans ce studio à 8h15. Et puis on retrouvera Jérôme Lacroix pour La France Bouge. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais justement, le monde qui change, c'est d'abord la publicité ciblée qui arrive sur nos télévisions et très vite en plus. Hein, dès le 1er janvier prochain, TF1 et l'opérateur Orange viennent d'annoncer un accord.
Alors, on connaît déjà le principe de la publicité ciblée. Lorsqu'on navigue sur Internet, on reçoit des pubs en fonction de ce qu'on a recherché, de ce qu'on a consulté, en fonction de nos centres d'intérêt. Ce sera pareil à la télévision. Théo Manval, comment ça va fonctionner ?
Eh bien, il faut déjà préciser que rien ne se fera sans votre accord. Hein. Mais si vous recevez la télé par une box internet, l'opérateur, ici Orange, va vous demander si vous acceptez de recevoir ces publicités ciblées. Et si vous répondez oui, il pourra collecter votre adresse, le nombre de personnes qui vivent chez vous, les programmes télé que vous regardez le plus et vous envoyer ainsi des pubs différentes de celles de votre voisin, Christian Bombrin, et le directeur produits et services d'Orange France.
Par exemple, une publicité pour un constructeur automobile, on va pouvoir cibler la taille de la voiture, est-ce que c'est un monospace pour une famille nombreuse ou est-ce que c'est une citadine pour un couple sans enfant ?
Et avec votre adresse, des magasins pourront aussi vous signaler des promos sur tel ou tel produit dans la région où vous vivez. Si TF1 se lance après France Télévisions il y a moins d'un mois, c'est parce que ces nouveaux spots vont lui rapporter plus. François Pellissier dirige TF1 Publicité.
Les pubs seront vendues plus cher puisqu'on permet de cibler plus finement. Et là, des petites et moyennes entreprises pourront aller communiquer en télévision parce qu'elles peuvent le faire localement.
En résumé, pas plus de pubs à l'écran, mais un éventail plus large d'annonceurs pour les chaînes. Le marché pourrait peser plus de 200 millions d'euros dans 2 ans.
Voilà, et d'autres chiffres, Théo Manval. À terme, 63% des Français pourraient recevoir ce service via les box internet. Dans un premier temps, Orange et TF1 visent 1 million de foyers.
La télévision, on va peut-être un peu moins la regarder à partir d'aujourd'hui, en tout cas en journée, puisque le confinement s'allège. On peut désormais se déplacer sans attestation. En revanche, après 20h, bah, là, on reste à la maison, c'est le couvre-feu.
Oui, mesure qu'appréhendent les restaurants. Restaurateur finit les plats emportés après cet horaire. Seules les livraisons restent autorisées. Ça veut dire encore moins de clients. Reportage à Strasbourg d'Arthur Elmbaché.
Le peu qui lui reste, c'est ça, la vente à emporter.
Très souvent, le gros rush, c'est entre 20h et 21h.
C'était le rush, puisque dès ce soir, plus le droit de sortir. Après 20h, interdiction d'aller chercher son plat dans le restaurant de Yann au centre-ville de Strasbourg.
J'ai envie de vous dire qu'on n'est plus à ça près. Pour nous, c'est une nouvelle mauvaise nouvelle.
Non, stop, pourquoi ?
Voilà ce que Matteo de la pizzeria chez Gepetto pense, lui, du couvre-feu.
C'est vraiment très, très tôt. Avant 20h, 4-5 pizzas, 2-3 pâtes, mais après 20h, c'est plus. C'est ça le problème. S'ils nous coupent encore ça, c'est foutu, quoi.
Les gens vont peut-être se rabattre sur les plateformes de livraison à domicile.
Ils prennent 30% quand même. Hein. Donc, une pizza importée coûte 7 euros. Si elle est en livraison, moins 30%, ça fait 2,10 euros de moins, donc ça ne paye pas beaucoup.
Il y avait une case pour aller chercher à manger, ils pouvaient laisser la case pour aller chercher à manger.
Jacques Chemantowski de l'UMI67 voudrait modifier la nouvelle attestation de sortie.
On ne reste pas dans le restaurant, on ne reste pas dans la rue. Je trouve ça grotesque, voilà. Donc ce que j'aurais aimé, c'est que ça soit au minimum à 21h30.
On est les seuls, dit le restaurateur, à être moins bien traités après le confinement que pendant. Strasbourg, Arthur Elbaché, Europe 1.
Et le soir, pour bouger après 20h, il faudra une bonne raison professionnelle ou médicale notamment.
Vous l'avez compris, la règle des 20 km prend fin. Vous allez donc pouvoir vous déplacer, partir en vacances dans toute la France.
Oui, Evelyne n'attendait que ça, pouvoir retourner dans sa résidence secondaire.
C'est sûr qu'on a hâte de pouvoir retrouver notre maison, là. Bah, écoutez, nous étions évidemment très pressés de pouvoir un petit peu sortir du département. La raison, c'est que quand nous avons quitté notre maison de bord de mer qui se situe à peu près 100 km de notre domicile, on est parti un peu précipitamment. Je suis plus sûre d'avoir bien fermé mon électricité. Vous voyez, on est parti tellement vite que voilà, à aujourd'hui, je me dis qu'il est grand temps qu'on retourne pour être sûr que tout a bien été fait.
J'ai l'impression que si vous allez dans votre maison de campagne, c'est pas uniquement pour couper l'électricité.
Vous avez raison, puisque notre maison se situe au bord de mer, donc déjà, on va pouvoir profiter de joindre l'utile à l'agréable et d'aller faire un petit tour à la fois en forêt et au bord de la mer. Ça nous manquait depuis, évidemment, le temps où on est un peu confiné quand même, là. Hein.
Ça nous manquait, propos recueillis par Pierre Herbulot. En revanche, grosse colère du monde de la culture qui dénonce une mise à mort et réclame le droit de rouvrir salles de spectacle, musées et cinéma. Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes aujourd'hui, notamment à Paris.
Et le Premier ministre Jean Castex sera amené à leur répondre. Il est l'invité exceptionnel d'Europe 1 ce matin. Il sera face à Sonia Mabrouk pendant une demi-heure, tout à l'heure à partir de 8h15. Pour l'heure, il est 5h35 et nous évoquons ce référendum destiné à inscrire la défense du climat dans la Constitution. C'est ce qu'a annoncé hier soir Emmanuel Macron, après plus de 3 heures de discussion avec les membres de la Convention citoyenne.
Oui, référendum qui pourrait être organisé d'ici la fin du quinquennat en 2022, si l'Assemblée et le Sénat donnent leur feu vert. Véritable annonce en faveur de l'écologie ou simple coup de com' pour Damien Carême, député Vert européen, il n'y a pas photo.
C'est une nouvelle opération de com'. Ben, on pourrait croire que c'est une bonne proposition, parce que notamment à l'émane de la Convention citoyenne, mais à y regarder plus près, je pense que la Convention citoyenne, c'était un tout, c'est 140 propositions. Là, il n'y a que celle-là, parce qu'il n'y a pas d'interdiction des véhicules polluants, il n'y a pas de remise en cause des traités commerciaux qui sont climaticides, il n'y a pas d'obligation d'isolation des logements. Et je pense que la lutte contre le changement climatique passe par toutes ces obligations et pas par une action qui finalement n'engage pas grand-chose. On met la protection du climat dans la Constitution, ça ne donne pas des textes de loi qui vont dans le bon sens, et rapidement, parce que maintenant le temps presse.
Damien Carême, député européen Europe Écologie Les Verts. Joe Biden invite l'Amérique à tourner la page. Les grands électeurs ont entériné sa victoire cette nuit à la présidentielle américaine.
Un accord commercial sur le Brexit pourra-t-il être trouvé ? Rien n'est moins sûr. Il reste un peu moins de 2 semaines de négociations entre Londres et l'Union européenne. Et le gros sujet qui fâche, c'est la pêche.
En Normandie, en cas de no deal, les pêcheurs devront se replier sur une zone sud de la Manche qu'ils partageront avec les Belges, les Hollandais et les Allemands. S'ils vont trop loin, ils pourront même être repoussés par les bateaux de la Royal Navy. Reportage avec des pêcheurs très inquiets dans un port du Calvados, François Coulon.
À Port-en-Bessin, ce sont les 10 chalutiers les plus gros, plus de 20 mètres, tarif plusieurs millions d'euros, qui redoutent le no deal, Dimitri Rogoff, président du comité des pêches de Normandie.
Tous ces bateaux-là, c'est des bateaux qui pêchent côté anglais plus de 50% de leur temps. En moyenne, c'est 70%, donc ils sont vraiment dépendants de ces zones-là. Ça peut devenir un drame.
Jean-Baptiste Touchard vient d'investir dans un bâtiment hauturier de 25 mètres de long.
C'est très inquiétant. On est vraiment dans l'inconnu et ça fait très peur. Moi, je me suis engagé à hauteur de 3,5 millions d'euros. C'est considérable. Je vois, quand le thon a été interdit en Atlantique, c'est des flottes de bateaux qui ont dû cesser carrément leur activité. Il y a eu des drames terribles.
Et vous craignez ça ?
Bien sûr, on y pense.
Le déploiement dans la Manche de bateaux armés de la Royal Navy passe très mal ici.
des bateaux de guerre au moment où on cherche un accord, faire sonner le canon, c'est irresponsable. Il n'y aura pas de bataille navale, on ne tient pas à ce qu'il y ait des accidents. Donc s'il doit y avoir une rétorsion, elle sera à terre, sur les importations. On bloquera les camions pour pas qu'un kilo de poisson anglais touche le sol français.
76% des poissons britanniques sont exportés, essentiellement dans l'Union européenne. Un blocus serait la pire des ripostes. Port en Bessin, François Coulon, Europe.
Manifestation de policiers cette nuit devant l'Arc de Triomphe à Paris. Ils étaient une centaine, gyrophares allumés, pour protester contre les propos d'Emmanuel Macron sur les contrôles aux faciès et les violences policières.
Et on va en reparler juste après le journal. D'abord le rugby. Le 15 de France affrontera les All Blacks dès la phase de groupe de la future Coupe du Monde en 2023. C'est le résultat du tirage au sort d'hier.
Reste à savoir quand le match se jouera, dans quelle ville. Question pas encore tranchée. Ce matin, on vous emmène dans les coulisses de ce mondial pour découvrir un travail de l'ombre, l'organisation des matchs et c'est loin d'être simple, Simon Rubin.
La France doit-elle jouer les blagues d'entrée histoire de profiter d'un formidable produit d'appel pour passionner le public ou, comme le préférait Fabien Galthié, attendre le deuxième ou troisième match ? Cette décision-là sera l'objet d'âpres discussions entre l'organisation et le staff des Bleus. Et ce n'est qu'un exemple. De fait, tout le calendrier va faire l'objet d'une espèce de grande négociation. Chaque ville veut accueillir les meilleures équipes, évidemment, et même les nations participantes ont leurs préférences. Claude Haché, qui gère l'organisation, va devoir arbitrer.
Les Gallois, ils ont envie d'aller jouer à Nantes. Parce que la culture celtique, les échanges, donc eux ça les intéresse. Les Écossais aimeraient bien jouer à Saint-Etienne. Les Irlandais aimeraient bien jouer à Bordeaux. Les Italiens à Nice. On va essayer de mettre en place un Rubik's Cube pour à la fois essayer de donner satisfaction aux équipes, aux villes qui ont besoin d'avoir des matchs attractifs. Ça, ça va être une discussion animée, hein, c'est sûr, parce que toutes les villes voudraient l'équipe de France et l'équipe de Nouvelle-Zélande.
Et par exemple, pour faire accepter à une ville d'avoir un ou deux matchs peu attractifs, eh bien l'organisation lui offrira une affiche de rêve en compensation. Ça marche comme ça, et le calendrier devrait normalement être terminé à la fin du mois.
Simon Rubin.
C'était le journal d'Hélène Zellani sur Europe 1. Il est 6h20. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
Sur l'hippodrome de Pau que se disputera ce quintet avec 14 chevaux et non 15, comme initialement prévu, le numéro 1 ayant été déclaré forfait. Avel de Kerbar, le numéro 5, visiblement doué sur les obstacles, a vraiment le bon profil pour réussir dans cette catégorie des handicaps. Distance et terrain lourd seront à son entière convenance. Sa place est donc dans les 5 premiers à une cote spéculative. On lui opposera Kerfani, le numéro 3, indissociable de mon favori puisqu'ils ont fait jeu égal le 1er novembre à Compiègne, n'étant séparés à l'arrivée que par une courte tête. Derrière ces deux-là, je vous recommande The Ply, le numéro 4, qui possède des références solides sur les haies paloises, Stopline, le numéro 8, une jument estimée par son entraîneur Daniel Amélé et qui ne doit surtout pas être condamnée sur son dernier échec à Auteuil, mais aussi Flèche Rouge, le numéro 7, probante deuxième d'un quintet le 29 novembre à Auteuil et qui, sur sa lancée, devrait pouvoir confirmer, n'ayant jamais été aussi bien qu'en ce moment. Enfin, les numéros 11, Beaufix, 6, Grazzano et 14, Milltop compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 3, 4, 8, 7, 11, 6 et 14.
Merci Thierry Léger. Tous vos pronostics, bien sûr, à retrouver sur europe1.fr. Il est 5h42.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et j'accueille tout de suite le premier invité de ce 5-7. Bonjour David-Olivier Reverdy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. La colère, le malaise monte au sein de la police. Les policiers en première ligne sur le respect du confinement, sur les manifestations et dans l'œil du cyclone sur les accusations de violences policières. Quand on entend colère des policiers, qu'est-ce qui vous met aujourd'hui le plus en colère ?
Le plus en colère, c'est qu'on a eu un président de la République qui ne défend pas ceux qui protègent la République, ceux qui, il y a 2 ans, l'ont protégé, souvenez-vous, l'Arc de Triomphe pillé et les casseurs voulaient s'en prendre à l'Élysée, marcher sur l'Élysée. Tout le monde était bien content de trouver les forces de police, policiers et gendarmes sur le chemin. Et jamais un président n'aurait eu de tels propos il y a 2 ans, sauf qu'aujourd'hui les temps sont passés, les manifestations sont moins nombreuses, virulentes mais moins nombreuses. Et aujourd'hui, pour vouloir faire plaisir à une certaine partie de la jeunesse à laquelle il s'exprimait, ben en fait, il vient de faire un croche-patte aux 250 000 policiers et gendarmes qui composent ce pays.
Alors les propos que vous évoquez, on va les préciser, c'était face à Brut il y a une semaine, où Emmanuel Macron évoquait des contrôles aux faciès et des violences venues de policiers. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Les contrôles aux faciès, ça n'existe pas ?
Non, les contrôles au passiès n'existent pas. Les policiers ne contrôlent pas par plaisir quelqu'un de couleur. On ne choisit pas sa délinquance, ça c'est très clair. Et faire croire aux gens que les policiers vont contrôler uniquement les délinquants de couleur, mais pas les délinquants d'une autre, en l'occurrence des Blancs, c'est totalement inacceptable et c'est méconnaître la réalité du quotidien des policiers qui aujourd'hui est un quotidien extrêmement difficile.
Sur les violences, il y a eu ce cas de ce producteur de musique à Paris, des images qui ont profondément choqué l'opinion. Ça existe.
Oui, ça on peut comprendre que les images aient choqué, mais encore une fois, quand on prend des images uniquement sorties du contexte pour 3 minutes, oui, les images, on peut comprendre qu'elles soient choquantes. Nous, ce que l'on dit juste, c'est que les policiers ont droit à la présomption d'innocence comme tout à chacun, et qu'aujourd'hui, la présomption de culpabilité dont a fait montre le président de la République est tout à fait inacceptable, c'est-à-dire qu'il les a jugés coupables avant même qu'ils ne soient mis en garde à vue et que leur enquête commence.
La colère et l'écœurement, on l'entend, qui s'exprime dans la rue. Vous organisez un certain nombre de manifestations, de contrôles. Et cette dernière action, 123 policiers de l'Isère qui ont déposé hier leur demande de rupture conventionnelle en préfecture. C'est une action symbolique où ils quittent vraiment.
C'est une colère, c'est un ras-le-bol. Le ras-le-bol, il date pas de la semaine dernière. Ça fait de nombreux mois que la police est à bout, parce qu'elle est suremployée, parce qu'on est sur les nerfs de tout ce qui peut se passer en France, de tout ce que le politique n'arrive pas à gérer, que ça soit sur des crises sociales, des crises économiques. C'est la police que l'on met au devant, parce que le politique n'arrive pas à prendre la mesure par des décisions opportunes, à calmer, la grogne de la société, ou au moins une partie d'entre elles, face à une majorité silencieuse qui n'arrive pas à s'exprimer. Donc oui, les 130 ruptures conventionnelles, sachez que c'est 130 en 48 heures. Les mots d'ordre continuent. On enregistre encore de nouvelles demandes de ruptures conventionnelles. Donc on va arriver à plusieurs centaines de ruptures conventionnelles sur l'ensemble du territoire. C'est aussi symptomatique, c'est que c'est des policiers qui n'acceptent pas aujourd'hui d'être violentés, d'être stigmatisés par le président de la République. Et en fait, on a une devise, nous, c'est payer pour servir. On n'est pas payé pour mourir.
Et il y a cette violence à laquelle les policiers sont confrontés. Encore dimanche, ce cas à Valenciennes, une quinzaine d'individus qui ont roué de coups des policiers lors d'une intervention dans un quartier difficile.
Effectivement, c'est malheureusement le quotidien de nos collègues. Dimanche à Valenciennes, il y a 12 500 policiers qui ont été blessés en 2019. 12 500, vous vous rendez compte? Il y a 11 morts en 2019. On paye un très lourd tribut. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour se faire essuyer les pieds comme sur un vulgaire paillasson que la police nationale n'accepte pas. C'est pour ça qu'on le montre quotidiennement par des actions sur l'ensemble du territoire. Nous, on les a appelés des contrôles de politesse, des contrôles de courtoisie, où en fait, on invite les gens et on explique aux gens que la police n'est ni violente ni raciste. Et je vais vous dire qu'on a un soutien énorme de la part de la population française. Ce soutien qui ne fait pas la une des journaux, qui ne fait pas la une des chaînes de télévision. Mais malgré tout, c'est un soutien réel, profond, que les Français sont attachés à leur police républicaine et nous le démontrent au quotidien de par nos actions.
Soutien aussi, on l'a beaucoup entendu de votre ministre Gérald Darmanin. Il garde encore votre confiance aujourd'hui ?
Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas montrer du doigt notre ministre. Ce n'est pas comme le précédent qui nous avait complètement lâché lui aussi, à croire que c'est une mode. Monsieur Darmanin nous soutient au quotidien par des tweets, par des actions. Mais là encore une fois, le ministre de l'Intérieur sans son président de la République, sans le Premier ministre, là aussi, on aimerait que Monsieur Castex puisse dire une bonne fois pour toutes qu'il soutient la police de façon inconditionnelle, qu'il juge que la police n'est pas violente, que la police n'est pas raciste, parce que ça, ce sont des propos inacceptables.
Vous citez le Premier ministre Jean Castex, il sera justement dans le studio d'Europe 1 tout à l'heure à 8h15. Qu'est-ce que vous lui dites ou qu'est-ce que vous avez envie de lui demander ce matin ?
La première des choses, monsieur le Premier ministre, c'est qu'on a besoin du soutien inconditionnel de votre part et de celui du président de la République. On a besoin également d'une véritable protection. Aujourd'hui, le policier n'est plus protégé. La justice ne protège plus ceux qui protègent la République. Et c'est à ce titre que le syndicat Alliance Police Nationale demande à ce qu'on puisse avoir un observatoire de la réponse pénale, c'est-à-dire qu'on puisse savoir les peines encourues par le délinquant, les peines qui sont prononcées et les peines qui sont réellement effectuées. La justice rendue au nom du peuple français, le peuple français que nous sommes, nous policiers, on est en droit de savoir ce que deviennent les gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait inacceptable que l'autorité soit à ce point bafouée et que l'État ait laissé nos collègues à la vindicte populaire en pâture, parce que plus personne ne protège plus rien dans ce pays. Et c'est les policiers qui protègent la République.
Eh bien, écoutez, on écoutera la réponse du Premier ministre tout à l'heure face à Sonia Mabrouk à 8h15. Merci David-Olivier Reverdy. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, secrétaire national adjoint du syndicat de police Alliance. Bonne journée à vous.
Merci.
Europe 1.
Il est 5h48 sur Europe 1 et nous allons chaque matin dans nos régions vous montrer que les Français ont des idées et mènent de très belles initiatives. C'est avec vous Jérôme Lacroix, où est-ce qu'on va ce matin ?
Mulhouse, avec des commerçants et des restaurateurs surtout interloqués. Depuis quelques jours, figurez-vous, les devantures de leur commerce se parent comme par magie de guirlandes, de boules de Noël et de sapins. Le souffle d'un esprit de Noël tout aussi généreux que mystérieux.
La France bouge, c'est à suivre avec Jérôme Lacroix. Quel teasing, à tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h10 sur Europe 1. Joe Biden sera bien le 46e président des États-Unis. C'est l'information de la nuit. Confirmation après le vote des grands électeurs. Joe Biden dénonce l'attitude de Donald Trump qui a, dit-il, refusé de respecter la volonté du peuple. La défense de l'environnement sera inscrite dans la Constitution. Un référendum pourrait être organisé, annonce Emmanuel Macron après une rencontre avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Puis le confinement s'allège à partir d'aujourd'hui. Vous pourrez à nouveau circuler librement et sans attestation dans toute la France. Mais attention, le couvre-feu est de retour entre 20h et 6h du matin.
Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
On écoute Le Monde Changer et on met en lumière chaque matin cette France qui bouge, ces Français qui ont des idées dans nos régions. Ce matin, Jérôme Lacroix, la femme ou l'homme à qui on voudrait bien dire merci.
Mais pour cela, il faudrait qu'on sache qui c'est. C'est la question qui agite en ce moment les habitants de la ville de Mulhouse. Principalement les restaurateurs, vous le savez, très touchés par la crise alors. Un mystérieux personnage a décidé de leur donner un peu de baume au cœur en ordonnant la décoration de leur devanture.
D'accord, alors c'est-à-dire, certains restaurateurs découvrent d'un coup que leur établissement a été décoré pendant la nuit, c'est ça ?
C'est le journal L'Est Républicain qui nous raconte. Depuis quelques jours, des lutins et des petites fées prénommées Périne, Marie et Gervais s'attellent à la tâche. Ils arrivent les bras chargés, de guirlandes, de boules de Noël, de gros bonbons empaquetés. Ils en ornent les devantures devant un propriétaire qui écarquille les yeux. Et quand on leur demande à ces petits lutins « Mais c'est de la part de qui ? Vous venez de la part de qui ?» Ils répondent en chuchotant qu'ils ne peuvent rien dire. Les lutins, en fait, rencontrés par l'Est Républicain, sont des employés d'une boutique de fleurs. La bienfaitrice ou le bienfaiteur mystère leur a passé commande. Tout a été payé. Au total, une trentaine de guirlandes et sapins pour décorer les enseignes du centre-ville. Des guirlandes de 5 mètres chacune, confectionnées à la main, mais aussi des boules, des beaux tissus et des nœuds.
Alors, on dirait un conte de Noël. Bel exemple de générosité. On sait tout de même comment ce mystérieux donateur s'est organisé pour la bonne marche de son projet.
Il a pris contact avec les responsables des vitrines de Mulhouse qui assurent ainsi la pose concrète des décorations. Et voilà que, c'est ça qui est génial, la générosité appelle la générosité. La ville de Mulhouse ne veut pas être en reste et fournit l'étoffe de Noël, célèbre tissu prestige mulhousien.
Voilà. Et donc on ne sait toujours pas qui c'est.
J'ai regardé selon les dernières infos, pour l'instant, l'identité n'a pas été dévoilée.
Le mystère de Noël, on vous tient au courant, vous nous dites si on trouve. Paul Lassen, c'est à vous pour les réseaux sociaux que vous surveillez chaque matin.
Oui, et je vais vous parler d'un bug mondial. Google et ses autres services ont subi une panne générale hier lorsque vous vous rendiez sur le site de YouTube ou de Gmail par exemple. Un message d'erreur s'affichait qui empêchait de vous y rendre. Alors, l'annonce de ce bug, elle s'est vite propagée sur Twitter et le moins que l'on puisse dire, c'est que les internautes sont vite devenus fous puisque ce matin, on dénombre près de 3 millions de tweets à travers le monde pour réagir à cette panne qui n'aura duré que 40 minutes. Au final, Google qui plante, le monde en sueur, s'amuse Claudia. Pareil pour Anthony, tout le monde est en panique avec son adresse Gmail. Moi, je suis serein avec mon vieux mail Wanadoo. Mais si, une communauté s'est retrouvée particulièrement dépourvue, c'est celle des télétravailleurs qui ont exprimé leur désespoir. Google qui plante, c'est une expérience formidable pour ceux qui bossent sur leurs documents en ligne. Je veux dire que là, je ne peux absolument pas travailler du tout, écrit Yann, expérience amère. Aussi, pour Toff, j'ai perdu tout mon travail de la journée. Merci à Google, je pense que je vais arrêter.
Et c'est les fameux documents partagés en ligne qu'on peut tous remplir à
distance. Qui n'étaient pas du tout accessibles pendant près d'une heure. Sauf que Google, ce n'est pas qu'Internet. Beaucoup de gens ont une maison connectée grâce à Google. Du coup, plusieurs cas assez caustiques. Celui de Joe, par exemple. Je suis assis dans le noir dans la chambre de mon enfant parce que la lumière est contrôlée par Google Home. J'y repense beaucoup
en ce moment. Pareil pour cet autre internaute, Gmail est en panne, c'est bien, il peut le rester pour toujours, mais mon thermostat Google Home est en panne, c'est mon seul vrai problème. Alors d'autres préfèrent en rire bien sûr. Nini se demande si ça se trouve chez Google, ils ont été obligés de taper « Comment réparer Google » sur Yahoo. Oui, c'est un peu alambiqué. Et Jennifer, elle, veut en finir avec cette année maudite. Quelle blague 2020, laissez-nous au moins Gmail qu'on puisse discuter.
C'est là qu'on voit que ces géants d'Internet comme Google sont entrés dans nos vies et oui. Tout dépend de notre travail et la lumière choix, dans le salon. Ouais, ça va jusque-là. Quoi. Paul Lassène pour les réseaux sociaux, chaque matin. Il est 6h05. Et vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat à 14h tout à l'heure pour Ondelat raconte. Mais vous pouvez prendre un peu d'avance, écouter dès maintenant l'histoire du jour en podcast sur europe1.fr. Cette histoire commence en 2013. Yannick Schrein souffre de douleurs aux muscles, de vertiges, ainsi que de problèmes de mémoire. Il est hospitalisé. Les médecins ne le croient pas, ils pensent qu'il somatise. Son histoire, c'est dans Ondelat raconte, à télécharger dès maintenant sur europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Et c'est l'heure de retrouver Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On regarde notre planète chaque matin avec vous et vous vouliez nous prévenir. Ce matin, c'est la saison du cynorhodon.
Oui, je voulais absolument vous parler ce matin des vertus du gratte-cul. C'est le petit nom de code donné au cynorhodon. On l'appelle comme cela en raison de ces petits poils urticants que les enfants malicieux aiment glisser dans le pantalon de leurs camarades pour déclencher de méchantes démangeaisons. Irritant, le cynorhodon, c'est là son unique défaut. Car après avoir retiré ces petites graines irritantes, le cynorhodon devient consommable et il est votre meilleur allié pour entrer dans l'hiver. On le trouve aussi bien dans son jardin que dans la nature à l'occasion d'une balade, car il y en a vraiment partout. Il s'agit en fait d'un faux fruit, une sorte de baie issue du rosier sauvage, autrement dit de l'églantier.
Une petite baie, facile à récolter, hein. Et vous nous en parlez parce que la cueillette, c'est maintenant.
Oui, on a tendance à penser que la nature est en sommeil à cette période de l'année et qu'il n'y a rien à récolter, mais au contraire, ouvrez l'œil, cette baie, vous la trouverez à profusion et vous la reconnaîtrez facilement, elle est charnue, allongée, rouge comme une groseille. Alors pour les ramasser, attention, car l'arbuste est épineux. Le cynorhodon se cueille entre novembre et décembre, c'est-à-dire maintenant. Il faut pour cela qu'il ramollisse, et pour qu'il ramollisse, il faut attendre les premières gelées. Il est donc prêt à être cueilli, et l'information importante, c'est que c'est une arme de choix pour venir booster nos défenses immunitaires. C'est en effet une bombe de vitamine C. C'est même exceptionnel, une teneur en vitamine C 100 fois supérieure à celle d'un agrume.
Ouais, l'intérêt du cynorhodon, c'est qu'il permet d'éviter de consommer finalement d'autres produits hors saison.
Oui, et c'est tout l'intérêt. Vous pouvez, par exemple, après cuisson, récupérer la pulpe acidulée pour l'étaler dans votre fond de pâte à pizza pour remplacer la tomate qui, elle, n'est pas du tout de saison. Sinon, plus classique, les sécher, les consommer en infusion, en sirop ou tout simplement en confiture. Je vous invite à regarder des recettes sur Internet, il y en a énormément. Et ce qui est génial, c'est que la chaleur n'altère en rien les vitamines que les baies contiennent. En Suède, le cynorhodon se consomme en soupe avec un soupçon de crème. Il suffit de les cuire avec du lait et de la fécule de maïs et de bien prendre le soin de passer la préparation au tamis ou au presse-purée pour en retirer les graines. Profitez-en encore une fois, c'est la saison.
Voilà, c'est la saison du cynorhodon, cette bombe de vitamine C, vous nous dites ce matin, Fanny Agostini. Merci beaucoup, à demain.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Et nous sommes le mardi 15 décembre, il est presque 6h du matin. Merci d'être fidèle à Europe 1. Nous rejoindre encore ce matin, en ce jour de déconfinement et d'instauration du couvre-feu. Sachez que le Premier ministre est sur Europe 1 ce matin. Jean Castex, invité exceptionnel à 8h15 tout à l'heure. Il répond à Sonia Mabrouk sur la stratégie de la France, sur les vaccins, sur la relance, mais aussi sur le malaise dans la police et pas seulement.
Macron, l'addition !
Ici la grogne des restaurateurs hier, aujourd'hui c'est le monde de la culture qui va manifester contre les cinémas et théâtres fermés. On va en parler à 6h40 avec mon invité en direct, le créateur de spectacle équestre Bartabas, qui viendra interpeller le Premier ministre. À suivre aussi d'ici 7h tous vos rendez-vous et notamment notre revue de presse internationale. On ira notamment à Barcelone. Ça, c'est le pire souvenir pour les supporters du PSG, la malédiction du Barça, la terrible remontada de 2017, le 6-1. bien la revanche est peut-être à venir. Le PSG va retrouver Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions. On ira en Espagne tout à l'heure voir ce que la presse en dit. Et puis vous entendez le son de Jean-Michel Jarre qui est au programme de la partition d'Omblin Roche à 6h25. D'abord on retrouve Laurent Cabrol pour la météo de ce mardi. Laurent, c'est à vous.
Ouais mon cher Sébastien, ça va pas bien. Ça ne va pas bien du tout avec de la pluie. Il pleut sur une bonne partie de la France à l'heure où nous parlons et il pleuvra pratiquement toute la journée sur certaines régions comme la Lorraine, l'Alsace, le Dijonais, la région Rhône-Alpes, l'Auvergne, la Franche-Comté, le bassin méditerranéen, le Midi-Pyrénées avec des pluies très fortes dans les Cévennes. Voilà, là ce sont vraiment les régions marquées par les intempéries. Ça va s'arranger, s'améliorer sur le nord, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, le centre, le Limousin, l'Aquitaine et le Béarn. Les pluies vont cesser progressivement mais ça ne veut pas dire qu'il fera très beau. Et puis des contrées conserveront un ciel d'alternance, nuages éclaircis avec des averses, toutes les contrées qui bordent la Manche et toutes celles qui bordent l'Atlantique. Voilà, la consolation, ce sont les températures tout de même. 10 degrés à Strasbourg cet après-midi, 11 à Lille, 12 à Paris, 13 à Lyon, 14 à Bordeaux et 16 à Marseille. Ma foi, c'est pas mal.
Voilà. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite, votre journal complet. Bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h, bon réveil à vous.
On ne comprend pas très bien, par exemple, que dans un État laïque, on réouvre les endroits de culte et on interdise les théâtres. Ça tape sur la tête des gens, quoi.
Alors que la France se déconfine aujourd'hui, le monde de la culture appelle à manifester dans tout le pays. Les professionnels réclament la réouverture des musées, théâtres et cinémas. Fini le confinement donc, mais revoilà le couvre-feu de 20h à 6h. Alors la mesure sera-t-elle efficace? Vous entendrez l'avis de plusieurs épidémiologistes. C'était une crainte des laboratoires à nouveau pris d'assaut par ceux qui veulent à tout prix se faire tester avant les fêtes. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Dans ce journal, nos opinions politiques et religieuses bientôt inscrites sur les fiches de la police. Et puis un mois et demi après le scrutin, Joe Biden est officiellement élu président des États-Unis. Les grands électeurs ont confirmé sa victoire cette nuit.
À suivre, les sports avec Jérôme Lacroix et une avarie pour le leader du Vendée Globe, Charlie Dalin. Et dans un quart d'heure, mon invité inattendu, on va parler rugby avec un créateur de mode qu'on découvre, grand amateur de ballon ovale. Il est avec nous à 6h15. Bon réveil à tous, 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après un mois et demi de restrictions, ça y est, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons à nouveau nous déplacer librement dans toute la France et sans attestation. Mais ce déconfinement n'a rien à voir avec celui de mai dernier. À partir de ce soir, nous serons tous soumis à un couvre-feu et surtout, contrairement au printemps, les cinémas, les musées, les théâtres ne rouvriront pas aujourd'hui. De quoi susciter la colère et l'incompréhension du monde de la culture qui dénonce un deux poids deux mesures. D'ailleurs, des manifestations sont prévues partout en France aujourd'hui. À Paris, un rassemblement est fixé à midi sur la place de la Bastille. Le comédien Jacques Weber, très remonté, sera présent.
On ne comprend pas très bien, par exemple, que dans un État laïque, on réouvre les endroits de culte et on interdise les théâtres. Tout ça manifeste une philosophie et une politique qui me semble extrêmement préoccupante. On n'arrête pas de dire la même chose depuis des jours et des jours. La multitude de gens qu'il y a dans les supermarchés et que les théâtres restent fermés, que les musées restent fermés, que le cinéma reste fermé, c'est en effet extrêmement grave parce que le théâtre est un lieu d'indépendance, de liberté. Tout ça crée des liens sociaux extrêmement importants. Et au bout d'un moment, je le sens bien près de moi et partout, ça tape sur la tête des gens, quoi. Je ne comprends pas bien ce qu'on fait subir au théâtre, lors même qu'il n'y a pas eu connaissance de cluster dans les théâtres. Et je crois qu'il faut tous se serrer les coudes. Pour ça, il faut tous, pas seulement les gens du spectacle, mais tous manifester.
Jacques Weber avec Diane Chénouda. Une autre manifestation est prévue à 18h30 devant le Théâtre de l'Atelier à Paris. C'est là qu'il aurait dû normalement dû rejouer ce soir.
On le disait, donc le confinement laisse place à un couvre-feu de 20h à 6h du matin.
20h au lieu de 21h initialement prévu. Alors est-ce qu'une heure de différence, ça peut réellement changer les choses? Victor Dolande a posé la question à des épidémiologistes spécialistes du Covid.
Pas le temps de traîner au travail, ni de boire un verre chez un ami, ni de déambuler dans les magasins à la recherche de cadeaux de Noël. À 20h, tout le monde à la maison. C'est une heure de contact en moins par rapport à 21h. C'est déjà ça, mais ça ne va pas inverser la tendance actuelle selon Nathan Peffers-Madja, infectiologue à l'hôpital Bichat.
Je pense pas que 20-21h, ça change massivement les choses. Déterminant principal étant à quel point les gens respectent ce couvre-feu, finalement, quelle que soit l'heure qui est déterminée.
Depuis quelques jours, les contaminations repartent à la hausse. Le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par un seul malade, remonte également, ce qui préoccupe l'épidémiologiste Dominique Costaguiola.
On est dans une situation, on est à un équilibre haut, avec un R0 proche de 1. On voit qu'il suffirait de pas grand-chose pour le déstabiliser. Il y avait un confinement, disons, assez partiel, mais quand même. Et on passe à cette mesure-là. De quel côté ça va nous faire basculer? Pas sûr que ce soit suffisant pour qu'on reste du bon côté du 1.
Ce R effectif est actuellement de 0,8 et s'il repasse au-dessus de 1, l'épidémie repartira. Son conseil avant Noël, s'auto-isoler dès maintenant pour limiter au maximum les risques de contamination avant le réveillon.
Les explications de Victor Delande.
Et sur la stratégie de la France, sur les mesures sanitaires, sur la vaccination aussi, on attend ce matin le Premier ministre Jean Castex qui sera face à Sonia Mabrouk à 8h15 sur Europe. On vous en parlait dès la semaine dernière, les professionnels de santé craignaient une ruée sur les tests avant les fêtes.
Et les laboratoires font déjà face à un gros afflux de patients et se préparent à en recevoir encore plus à 4 jours des vacances, car qui dit Noël dit retrouvailles en famille, auprès des grands-parents et de personnes parfois fragiles. Mais ces tests par prévention sont-ils une bonne idée? C'est ce que Jean-Jacques Herry a cherché à savoir.
Isabelle sort du laboratoire et elle a mal au nez. Elle vient de faire un test PCR, nécessaire avant son départ pour l'Espagne, mais elle n'envisageait pas de le faire spécialement pour le réveillon de Noël.
Je comprends, oui, parce que si on va avoir de la famille qui se voit à un certain âge, je peux comprendre, mais pour moi c'est un peu de l'abus.
De l'abus pour un test de confort, dit-elle. Les laboratoires s'attendent à une vague qui va grossir jusqu'à Noël et risque de venir s'échouer sur les capacités de test, même avec des personnels très mobilisés. Vincent Vieillefond est pharmacien responsable microbiologie au plateau Biogroup à Levallois-Perret, où les tests sont analysés.
En France, on est capable de faire à peu près 600 000 PCR par jour. Si on dépasse largement ces 600 000, il risque d'y avoir des déçus.
Des déçus, car les prioritaires resteront les mêmes, les symptomatiques et les cas contacts.
On risque de prendre la place de quelqu'un qui en a vraiment besoin. Quelqu'un qui se présente et qui est symptomatique passera toujours devant quelqu'un qui a pris rendez-vous justement dans le cadre d'une réunion familiale et qui pensait bien faire.
Ce ne sera pas un Noël comme les autres, il faut l'accepter, conclut Vincent Vieillefond. La meilleure protection pour le réveillon, test ou non, c'est la prudence. Maintenir au maximum la distanciation, le masque en intérieur et se laver les mains jusqu'à 15 fois par jour si nécessaire.
Il est 6h06 sur Europe 1. Cette question à présent, pourrait-on voir nos opinions personnelles inscrites dans un fichier de police?
Les convictions politiques, religieuses et même nos pratiques sportives. 3 décrets sont parus au journal officiel il y a une dizaine de jours. En toute discrétion, ils permettent d'élargir les informations concernant les personnes susceptibles d'être dangereuses pour la sécurité publique. Désormais, la sûreté de l'État. Et ce qui fait notamment réagir Gladys Laffitte, c'est que ces fichiers ne s'intéressent plus seulement aux activités des personnes.
Oui, l'idée n'est plus seulement de ficher un hooligan, un activiste ou un manifestant violent pour ses actes, mais simplement pour ses opinions politiques, philosophiques, religieuses ou encore s'il est syndiqué, en clair, juste sympathisant d'une cause sans forcément militer. Et autre nouveauté, ces fichiers concernent aussi désormais l'entourage des personnes ciblées, leurs amis, leurs familles et même leurs enfants, avec photos et même leurs commentaires postés sur n'importe quel réseau social. Tout cela est disproportionné pour Nils Monsara, secrétaire national au syndicat de la magistrature.
Peu importe ce que les gens pensent, l'important c'est ce qu'ils font. En fait, ça accrédite un peu l'idée qu'il faut prévenir toujours plus et au nom de la prévention généralisée, on arrive à avaliser des choses qui ne sont pas acceptables dans un état de droit et dans une démocratie.
Alors au ministère de l'Intérieur, on assure que cela répond à un besoin opérationnel dans la lutte contre le terrorisme, pas de surveillance de masse selon Gérald Darmanin, mais la CNIL s'alarme, elle n'a pas été consultée sur le fichage des opinions. Plusieurs syndicats et associations ont par ailleurs déposé un recours devant le Conseil d'État.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1. Ça y est, c'est fait. Joe Biden sera bien le 46e président des États-Unis. Les grands électeurs ont voté cette nuit. On en parle dans un instant. À tout de suite.
Europe Matin,
le 5-7,
Sébastien Krebs.
6h09 sur Europe 1, la suite du journal avec Sophie Echen.
Et c'est officiel, Joe Biden deviendra bien le 46e président des États-Unis. Le collège électoral américain l'a confirmé cette nuit. Le vote des grands électeurs de Californie a permis aux démocrates de franchir la barre des 270 suffrages, synonyme de victoire. Joe Biden s'est exprimé depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware.
J'espère de tout cœur que l'on ne reverra jamais les menaces et les abus que nous avons constatés au cours de cette élection. C'est inconcevable. La Cour suprême a envoyé un message clair au président Trump. Elle ne participera pas à une attaque sans précédent contre la démocratie. Dans cette bataille pour défendre l'âme de l'Amérique, la démocratie l'a emportée. Nous, le peuple, avons voté. La confiance dans nos institutions a tenu. L'intégrité de nos élections est restée intacte. Maintenant, c'est l'heure de tourner la page comme nous l'avons fait tout au long de notre histoire.
Joe Biden qui a fustigé l'attitude de Donald Trump, pointant son refus de respecter la volonté du peuple, de respecter l'état de droit et de refuser d'honorer la Constitution.
Le journal vous était présenté par Sophie Echen sur Europe 1. Il est 6h10.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Allez, on passe au sport avec Jérôme Lacroix et à la une, cette information de la nuit. Ce nouveau coup de théâtre sur le Vendée Globe.
Charlie Dalin n'est plus premier. 3 semaines que le marin normand menait la flotte du Tour du Monde à la voile. Relégué 3e ce matin, dépassé au sud de l'Australie par Thomas Ruyant, nouveau premier. Et Yannick Bestaven, 2e. Charlie Dalin, victime d'une avarie, des dégâts à bord, Corinne Boulou.
C'est un craquement anormal qui a éveillé les soupçons de Charlie Dalin alors qu'il progressait en tête de la course au sud de l'Australie vers l'océan Pacifique. Après une première inspection en pleine nuit australe, il a constaté que le système de foil bâbord, qui permet au monocoque sur son côté gauche d'accélérer au-dessus des vagues, était endommagé. Le solitaire n'a pas constaté de voie d'eau à bord dans l'immédiat, mais il a été contraint de ralentir sérieusement son bateau dans l'attente d'en savoir un peu plus. Il a d'ailleurs envoyé les premières photos à son équipe à terre, qui a planché toute la nuit pour étudier tous les scénarios et préparer une éventuelle réparation en mer. Charlie Dalin attendait le lever du jour pour pouvoir faire un état des lieux plus précis, mais c'est un nouveau rebondissement important dans une course qui décidément n'en manque pas.
Corinne Boulou qui suit le Vendée Globe pour Europe 1. Et puis Samantha Davis, la skippeuse britannique, elle est repartie, mais hors course. Contrainte à l'abandon après une avarie, elle aussi, elle était depuis plusieurs jours en Afrique du Sud. Elle poursuit le tour du monde, portée par son projet associatif Initiative Cœur, qui permet de financer des opérations cardiaques pour les enfants.
On parle de deux coups du sort pour deux affiches prestigieuses.
Oui, France-Nouvelle-Zélande au Mondial 2023 de rugby, selon le tirage au sort du premier tour effectué hier. Peut-être même cette affiche en match d'ouverture de cette Coupe du Monde en France. Et puis en foot, encore Barcelone pour le Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions. Match aller le 16 février en Catalogne.
Le monde du foot qui pleure encore ce matin, Gérard Houllier.
Le grand club anglais de Liverpool lui consacre une touchante vidéo hommage sur ses réseaux sociaux, notamment les Reds que Gérard Houllier, mort à 73 ans, a entraîné pendant 6 saisons, offrant notamment 5 trophées sur la seule saison 2000-2001. Sa page sombre à Gérard Houllier, c'est ce 17 novembre 1993. France-Bulgarie, les Bleus dont il est sélectionneur, éliminés aux portes du Mondial 94, souvent associés à cette défaite. Mais Gérard Houllier, c'était bien plus, martèle le capitaine des Bleus d'alors, Jean-Pierre Papin.
C'est quelqu'un qui a fait rayonner le football français. C'est vrai que la période de Liverpool a été exceptionnelle. Il a relancé le club après une période de disette. Voilà, Gérard, c'était ça aussi. C'était quelqu'un qui aimait les challenges et souvent ça marchait.
Et puis, elle rêve d'une demi-finale de l'Euro. Les Bleus du handball France-Suède, 18h15, dernier match du second tour. Un nul suffit aux Françaises pour rejoindre le dernier carré de ce championnat d'Europe au Danemark.
Merci Jérôme Lacroix. Il est 6h13.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. Alors Jérôme le précisait à l'instant, le tirage au sort de la future Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France en 2023 a eu lieu hier. La France va affronter la Nouvelle-Zélande et l'Italie. Mon invité inattendu y était à ce tirage au sort, même si à première vue, il n'a pas grand-chose à voir avec le rugby. Bonjour à vous.
Bonjour, c'est Christian Louboutin-Lapaille.
Bonjour Christian Louboutin, vous avez participé à ce tirage au sort, vous, le créateur de mode. Que faisiez-vous là-bas? Vous allez nous le dire dans un instant. À tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 6h16 sur Europe 1 et mon invité inattendu ce matin est le grand créateur de mode et surtout créateur de souliers, Christian Louboutin. Christian Louboutin, on vous découvre donc amateur de rugby.
Oui, oui, amateur de rugby. Moi, j'aime beaucoup le sport. Pas tous les sports, mais le rugby fait partie des sports que je regarde depuis un certain temps et que j'apprécie énormément.
Comment vous vous êtes retrouvé à assister et même à participer à ce tirage au sort de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France dans 2 ans?
En fait, j'ai des amis qui sont rugbyman et je dois dire que j'ai plutôt découvert le rugby en Angleterre. Bon, alors, de toute manière, c'est un sport à la base très anglo-saxon et les Anglais, toute la Grande-Bretagne est très, très, très fervente. Hein. Et donc, c'est vraiment en Angleterre que j'ai découvert le rugby.
Et donc, comment vous vous retrouvez à être invité à participer à ce tirage au sort?
mais parce que je connais des gens qui font du rugby. Et puis, c'est une passion qui m'a permis de parler à pas mal de gens, et dont Claude Hatcher, qui s'occupe de la Coupe du Monde 2023, et qui m'a demandé si ça m'amusait. Alors j'ai dit m'amuser, moi je suis plutôt timide, donc je peux pas dire que ça m'amuse, mais comme de toute manière j'aime beaucoup le rugby, je suis ravi de faire ça, absolument.
Et donc vous faisiez partie de 6 personnalités, des ambassadeurs de la France pour à l'adresse de l'étranger, parmi lesquels il y avait Jean Dujardin, Yann Arthus-Bertrand, le chef Guy Savoy, et vous-même Christian Louboutin. Vous avez un club de cœur ?
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Toulouse.
Supporter de Toulouse, vous êtes souvent dans les stades de rugby ?
Non, malheureusement, à cause de mon travail, j'y suis pas assez. Mais dès que je peux, je le fais. Et ça, c'est formidable parce que 2023, donc comme ça se passe en France, dans une dizaine de villes, ça va me permettre, en plus de voyager en France, d'aller dans certaines villes que je connais pas. Et donc là, je vais vraiment en profiter pour voir le maximum de matchs.
Une Coupe du Monde de rugby en France, donc en 2023, ça va être un gros événement, on espère, avec le plus normalement possible du monde et des supporters dans les stades.
Ah bah oui, non, mais je pense que 2023, à moins d'une nouvelle catastrophe, les choses devraient être réglées. Hein.
Alors c'est vous qui avez tiré une partie des pays, enfin vous avez tiré en tout cas l'Italie, je crois, pour la France.
J'ai tiré l'Italie, l'Argentine, l'Écosse et Fidji.
Voilà. Et pour la France donc, l'Italie. La France qui va aussi affronter les All Blacks,
la Nouvelle-Zélande
dès le premier tour.
On les a quand même battus en 98, hein, donc ça peut recommencer. Surtout que moi j'ai le sentiment qu'en 2023, on a quand même des espoirs incroyables. Il y a des gens formidables déjà, et puis toute la nouvelle génération des rugbymen français, comme ça, qui sont 20 plus, qui vont être entre 20 et 24, sont vraiment bien.
10 Coupes du Monde de rugby, il y a eu, la France ne l'a jamais gagné, 3 fois en finale, ça peut être la bonne cette fois, vous y croyez ?
Écoutez, ça se passe en France, ça porte les équipes d'être dans leur pays, donc oui, enfin, moi je suis là pour supporter notre équipe et hurler comme il faut pour que ça se passe au mieux, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, bien sûr. En plus, il y a la Nouvelle-Zélande tout de suite, avec les Français, après ils se retrouvent en finale, donc en tout cas ça sera une magnifique finale.
Ça va être une magnifique affiche, évidemment. Christian Louboutin, on vous connaît évidemment pour vos talons aiguilles, vos chaussures mythiques avec leurs semelles rouges. Vous faites aussi des modèles un peu plus détendus, un peu plus casual. À quand des modèles pour les joueurs de rugby ? Vous n'êtes pas tenté ?
Alors, les joueurs, c'est une autre histoire. Moi, je dessine des souliers, je dessine des sneakers. Je fais des sneakers depuis des années. Je fais des souliers à talons hauts pour les femmes. Je fais des souliers, tout type de souliers pour les hommes aussi maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. La seule chose, c'est tout ce qui concerne le sport réellement. C'est une chose technique et il faut travailler. Ouais. Moi, j'ai quand même la conscience que j'ai fait des souliers pour des équipes, mais plutôt pour des parades. J'ai quand même conscience que quand il s'agit d'un sport, il faut être très très précis et techniquement, on est obligé de travailler avec les athlètes.
Mais ça peut vous inspirer, le rugby peut vous inspirer une collection.
Bien sûr. Même les couleurs, je me rappelle, les couleurs du Pays de Galles, j'avais fait des souliers avec le dragon rouge. Ah oui, bien sûr, ça fait tout à fait partie de... Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le rugby, donc ça fait vraiment partie des choses qui sont complètement inspirantes.
Merci beaucoup, merci d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu, Christian Louboutin, donc qu'on découvre,
merci.
Grand amateur de rugby. Merci à vous, bonne journée, bonne fête à vous.
Merci, bonne journée, au revoir.
Europe 1, Sébastien Krebs.
6h21 sur Europe 1, plus de confinement, plus d'attestation, ni de limite de déplacement, mais attention, le couvre-feu est de retour dès ce soir de 20h à 6h du matin. Emmanuel Macron avait rendez-vous hier soir avec les membres, les citoyens de la Convention pour le climat. Le chef de l'État ouvre la voie à un référendum sur l'introduction de la défense de l'environnement dans la Constitution. Et puis après 3 mois et demi d'audience, le procès des attentats de janvier 2015 s'est achevé hier avec les derniers mots des accusés et les plaidoiries de leurs avocats. Le verdict est attendu demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le 5-7 se poursuit en musique avec le son de celui qui a rendu accessible et populaire la musique électronique. Jean-Michel Jarre, son histoire dans la partition d'Omblin Roche. À suivre, à tout de suite.
Europe 1.
Il est 6h24 sur Europe 1 et c'est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche. Alors on le sait, il n'y aura pas de spectacle, pas de concert pour Noël. Quoique, le 31 décembre, Jean-Michel Jarre, toujours aussi inventif, va donner un concert en réalité virtuelle dans une cathédrale Notre-Dame de Paris entièrement numérisé. Nouvelle performance instrumentale et visuelle pour celui en Blin qui a su créer une passerelle entre musique et technologie.
Pionnier, révolutionnaire, visionnaire, vous choisissez. Hein, les qualificatifs sont nombreux, Sébastien, quand on évoque Jean-Michel Jarre. En 1976, en pleine période punk et disco, le musicien surprend tout le monde et fait entrer la musique électronique dans tous les foyers.
Il faut rappeler que Jean-Michel Jarre s'est fait connaître grâce d'abord à ses textes de chansons.
Oui, et après l'album « Mort ou vif » écrit pour Patrick Juvet et son enregistrement à Los Angeles, il est de retour à Paris et il retrouve ses machines dans son appartement. Ce sont tous des synthétiseurs ou des claviers électroniques qui émettent des sons complexes et cosmiques.
Et qui composent les pistes de ce premier album, « Oxygène ».
Un disque qui ne s'est pas fait en quelques semaines, c'est ce que Jean-Michel Jarre raconte dans son autobiographie mélancolique « Rodéo ». Il s'agissait, dit-il, de l'émergence d'une longue accumulation d'idées, d'espoir, de désirs, d'inspiration, d'expériences patiemment écrites en moi depuis toujours.
Avec son album sous le bras, Jean-Michel Jarre fait le tour des maisons de disques.
Et il cumule surtout les refus. Elles doivent aujourd'hui encore s'en mordre les doigts. Un seul accepte de publier Oxygène. Le patron des disques Motors, Francis Dreyfus, seulement 50 000 exemplaires sont d'abord fabriqués.
Nouvel obstacle, comment faire connaître cet album, le faire écouter, le vendre?
Et bien là encore, Jean-Michel Jarre ne fait rien comme les autres. Il s'adresse aux magasins qui proposent du matériel hi-fi. Oxygène est diffusé dans les boutiques et ça marche. Les radios prennent le relais et surtout Europe 1 qui diffuse l'intégralité du disque est toujours sur Europe 1. La partie 4 d'Oxygène devient en 1977 le générique de l'émission Basket présentée par Jean-Loup Lafont.
C'est parti et c'est sans doute un grand, très grand moment de radio. Tendez bien l'oreille.
L'émission Basket 1977 sur Europe 1. En France et à l'étranger, les ventes d'Oxygène vont exploser.
Au total, 18 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Jean-Michel Jarre raconte « Cet album m'a rendu riche, un gain qui n'a pas de prix puisqu'il m'a permis d'acheter ma liberté. » Après deux autres collaborations avec Patrick Juvet et Christophe, le musicien décide de ne plus écrire pour les autres et de se consacrer à sa musique.
Jean-Michel Jarre sur Europe 1, Oxygène, c'était en 1976,
Omblin. Oui, Jean-Michel Jarre qui donnera un concert virtuel dans la nuit du 31 décembre lors du passage à l'an 2021 de 23h25 à minuit 15 avec comme décor virtuel la cathédrale Notre-Dame de Paris entièrement numérisée, un événement à suivre notamment sur YouTube et sur Facebook.
Qui est
événement
gratuit donc. Tourné dans un studio virtuel. Oui. La partition d'Omblin Roche, chaque matin, juste avant 6h30. À demain, Omblin.
À demain.
Et on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Mais pas brillant mes amis, pas brillant. Hein. Si vous avez mis le nez dehors, aujourd'hui en déconfinement, vous allez forcément mettre le nez dehors. Il pleut et il pleuvra une bonne partie de la journée. Pour l'instant, la perturbation mesure 500 km de large, c'est vous dire. Elle a libéré les côtes de la Manche, une grande partie des côtes atlantiques. Et elle s'enfonce à travers le pays. Seront libérées aussi par les intempéries, parce que, bon, elles ne sont pas très très fortes. Le nord, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, le centre, le Limousin, l'Aquitaine et le Béarn. Vous en serez débarrassé à la mi-journée pratiquement. Et les régions de l'Est, malheureusement, conserveront encore de la pluie. Hein, la Lorraine, l'Alsace, la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté, le bassin méditerranéen dans son ensemble, le Midi-Pyrénées, les Cévennes et la vallée du Rhône, autant de régions où ça ira mal. Les températures maximales entre 11 et 14 degrés. Ça, c'est plutôt sympathique.
Et d'autres détails encore juste avant 7h. À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, merci de nous rejoindre en ce mardi 15 décembre. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h30.
Ils vont s'isoler et protéger leurs proches. Ils vont être un élément de la réponse collective et donc de la lutte collective contre l'épidémie.
C'est un ancien Premier ministre qui parle, Édouard Philippe, qui joue les bons élèves de la stratégie tester, alerter, protéger. Dans sa ville du Havre, où un dépistage massif a commencé hier à petite vitesse, il veut inciter les personnes contaminées à bien s'isoler. Moment parfois stressant, mais synonyme de dialogue et d'encouragement quand ça se passe bien. Les entretiens annuels d'évaluation ont commencé dans les entreprises cette année, souvent par visioconférence. Et puis, un opéra, 9 symphonies, 32 sonates pour piano, Beethoven, toujours aussi célèbre aujourd'hui, 250 ans exactement après sa naissance.
Dans 10 minutes, le monde de la culture sous couvre-feu, pas de cinéma, pas de théâtre, des manifestations aujourd'hui. Et un artiste pour interpeller le Premier ministre Jean Castex qui sera dans ce studio à 8h15. Le scénographe, créateur de spectacles équestres, Bartabas, est mon invité juste après le journal. Entre dégoût et lassitude, il a décidé d'abandonner, de fermer jusqu'au mois de juin. À suivre aussi l'innovation avec Anissa Mbida et votre revue de presse internationale. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Notre quotidien va un peu changer à partir d'aujourd'hui, avec des règles un peu plus strictes en soirée, mais plus souples dans la journée. Car oui, le deuxième confinement, c'est fini, mais le couvre-feu revient. Justin Morin, on est bien d'accord, hein, les attestations à remplir en pleine journée, c'est terminé.
Oui, ça y est, ce matin, plus besoin de cocher une petite case pour aller travailler, pour aller faire une course ou tout simplement pour aller vous promener. Les attestations, c'est fini pour la journée. Vous pouvez aussi de nouveau vous déplacer d'une région à l'autre pour partir en vacances par exemple. Plus besoin d'avoir un motif particulier. Mais ce soir, dès 20h, c'est le retour du couvre-feu. Il faudra rester chez vous. Toutes les sorties sont interdites jusqu'à 6h du matin. Soyez donc prévoyant pour vos achats, par exemple de nourriture. Après 20h, ce ne sera plus possible d'aller chercher un plat emporté. Il y a quand même des exceptions pour sortir la nuit. Et là, on retrouve les mêmes dérogations qu'au mois d'octobre dernier. Quelques exemples. Si vous terminez le travail après 20h, si vous devez sortir pour raison médicale, pour une mission d'intérêt général comme une maraude, ou simplement pour promener votre animal de compagnie. Autre situation, si vous prenez un train qui arrive après 20h, votre billet pourra vous servir de justificatif. Dans tous les cas, il faudra vous munir d'une attestation. Pour le réveillon de Noël, pas de couvre-feu, ce sera l'unique exception. Pour le nouvel an, toute fête ou rassemblement sera interdit sous peine d'une amende de 135 euros.
Merci Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
Pas de bousculade hier au Havre, loin de là pour le lancement du dépistage massif. Un peu plus de 2000 personnes sont venues se faire tester dans les 20 centres mis en place spécialement.
Oui, alors c'est 4 fois plus qu'une journée habituelle, mais à l'échelle de l'agglomération, 2000 personnes, c'est tout petit par rapport aux 270 000 habitants. On est très loin de pouvoir tirer un premier renseignement sur la circulation du virus. L'autre enjeu tout de même, c'est de mieux isoler les personnes positives. Jean-Gabriel Bourgeois est au Havre pour Europe 1.
Testé, alerté et maintenant mieux protégé. L'enjeu de cette campagne de dépistage massif, c'est la gestion de l'isolement des cas positifs. Un protocole spécifique est établi pour ceux qui peuvent s'isoler à domicile. Germain Toubol dirige l'un des centres de test.
Les personnes sur le centre vont lui expliquer les gestes à faire chez elle pour respecter les gestes barrières. Comment partager la salle de bain, comment manger dans sa chambre pour réussir à vivre avec sa famille.
Un accompagnement individualisé est mis en place. Léo Janin de la Protection Civile.
Personne habite seule chez elle, peut-être qu'il faut lui livrer des courses pour pas qu'elle sorte et qu'elle contamine au supermarché les personnes.
Les quelques cas positifs détectés hier sont tous rentrés chez eux. Aucun n'a demandé un hébergement à l'hôtel. Des chambres sont réquisitionnées. Le maire du Havre, Édouard Philippe, résume la stratégie.
Un, ils vont s'isoler et protéger leurs proches. Ils vont être un élément de la réponse collective et donc de la lutte collective contre l'épidémie. Et trois, nous allons les accompagner pour que cette période d'isolement ne soit pas trop pénible ou trop dure.
Un isolement pas contraint donc, mais indispensable pour la réussite de cette opération avant l'arrivée des vaccins. Le Havre, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Ces dépistages massifs, mais aussi les mesures sanitaires, la vaccination, la grogne qui monte dans le pays, dans le monde de la culture, mais aussi dans le monde de la police. Autant de questions à poser au Premier ministre Jean Castex, qui est l'invité exceptionnel d'Europe 1 aujourd'hui. Il est à 8h15 face à Sonia Mabrouk pour une demi-heure d'entretien.
Et à propos d'entretien, justement, il y a celui qu'on doit passer chaque année en entreprise avec sa ou son responsable hiérarchique l'entretien annuel d'évaluation, les réussites, les points d'amélioration, les objectifs, la rémunération aussi. C'est en ce moment que ça se passe. Élise Dangean, on fait comment avec le Covid et le télétravail ?
Eh bien, cette année, certains ont pour la première fois mené leur entretien annuel à distance, par téléphone ou en visioconférence. Une aubaine pour les plus timides qui redoutaient ce moment, comme Jérémy, développeur dans une start-up.
C'est un peu plus simple, ouais. Moi, je ne suis pas très à l'aise pour ce genre de choses. Donc, c'est vrai que c'est, vu qu'on est chez soi, c'est un petit peu mieux. Ouais.
Alors, certains employeurs ont préféré, eux, maintenir les entretiens en présentiel, mais c'est bien la crise sanitaire qui était au cœur des discussions, comme le raconte Edith, qui travaille dans une agence de pub.
On a beaucoup échangé sur la réorganisation et au niveau de l'évolution pour l'année prochaine en fonction de ce qui se passe. Donc ça a pris quand même une grosse place sur cet entretien.
Et c'est le but, dit Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH, appelle les entreprises à ne pas négliger ce moment.
Les entretiens d'évaluation, ils ne sont pas faits que pour évaluer. Ils sont aussi faits pour savoir comment va le collaborateur. Et donc en ce moment où il y a tant d'inconnus et tant d'incertitudes, c'est encore plus important. Et puis, c'est une forme de prise de température de votre entreprise aussi.
Mais pour certains salariés, ça pourrait bien être la douche froide, car dans ce contexte de crise, les bonus resteront limités s'ils ne sont pas supprimés.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
Il est né un 15 décembre, comme aujourd'hui, mais c'était en 1770, il y a 250 ans, naissait un géant de la musique, le compositeur allemand Beethoven.
Alors il suffit de quelques notes, on l'entend pour reconnaître par exemple l'hymne à la joie de sa 9e symphonie, c'est l'une de ses 500 compositions. Ce matin, lors d'Autriche, vous nous faites découvrir une autre partition, une partition originale que renferme la Bibliothèque nationale de France.
Oui, dans la grande réserve, à l'abri de la lumière, se trouve un trésor, la partition originale d'une œuvre pour piano de Beethoven, la sonate Appassionata. Beethoven composait parfois dehors, au pied d'un arbre, et ce jour-là, il a plu. On voit les taches qu'a laissées la pluie sur le manuscrit. Et puis, un pli au milieu, Beethoven avait mis la partition dans sa poche. La feuille est couverte de notes, détaille Mathias Auclair, le directeur de la musique à la Bibliothèque nationale de France.
On voit la personnalité de Beethoven, c'est-à-dire que Beethoven avec les cheveux dans tous les sens, un peu tempétueux, un peu le seul caractère aussi, avec beaucoup, beaucoup plus de ratures que chez Mozart, avec des ratures très, très nerveuses. Hein. Ça jaillit.
Plus le temps passe, plus Beethoven devient sourd. Il souffre énormément, de plus en plus reclus, presque misanthrope. Mais il montrera toujours dans sa musique que la vie doit être joyeuse et fraternelle.
Et ben voilà, la vie joyeuse et fraternelle, c'était l'heure d'Autriche pour Europe 1.
Et pour terminer ce journal de 6h30 en musique, merci François Geffrier, 6h37.
Europe 1.
Et l'invité du 5-7 est avec nous. Bonjour Bartabas.
Bonjour Sébastien Krebs.
Merci d'être avec nous en direct, vous qui avez fondé le théâtre équestre Zingaro. C'est un déconfinement qui laisse le spectacle vivant sur le bord du chemin aujourd'hui. Une fin d'année sans théâtre, sans scène, sans public. On va en parler dans quelques secondes. Avant l'arrivée dans ce studio donc de Jean Castex, et vous allez avoir l'occasion de l'interpeller. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
L'invité du 5-7 ce matin à 7h20 est le créateur de spectacles équestres Bartabas, fondateur du théâtre Zingaro. Alors je le disais, déconfinement aujourd'hui, sans théâtre, sans spectacle. Quel sentiment vous avez ?
Comme évidemment la consternation, comme tout le monde, je pense. C'est la deuxième fois qu'on reporte notre création qui devait avoir lieu début novembre, puis ensuite 15 décembre, maintenant soi-disant le 7 janvier. Enfin, c'est ridicule, quoi. Et c'est consternant, d'autant plus que j'ai une première grosse création qui a été annulée au mois de mars en plus, avec toute sa tournée. Donc, mais bon, moi, au-delà de ça, je pense que c'est la consternation pour tout le monde en règle générale, de toute façon. Mais moi, je suis surtout assez furieux et assez par l'incompétence, voire l'inconscience, je pense, du ministre de la Culture, parce que je veux dire, on peut pas jouer avec les artistes comme ça, comme on jouera à la Marelle, hein. C'est-à-dire que d'avancer comme ça des dates complètement ridicules. Ouais. Alors bien sûr, on peut toujours dire qu'on avait prévenu, qu'il fallait que le chiffre. Mais enfin, on sait très bien avec le jeu médiatique actuel que voilà, il suffit d'annoncer comme ça une date pour que tout le monde reprenne et dise voilà l'ouverture des théâtres. Maintenant, on dit l'ouverture le 7. Expliquez-moi ce que je fais avec mes spectateurs. Vous savez, Zingaro vit à 70% de ses recettes propres. propre. Ils ont acheté leur place déjà pour le mois de novembre. Ils ont été remboursés. Ils ont racheté pour le mois de décembre. Ils vont être remboursés. Moi, je n'ose pas leur dire on va reprendre le 9 janvier. Ouais. Donc voilà, moi, je jette l'éponge. Cette création, comme la précédente, sera complètement annulée. Elle n'existera plus parce que de toute façon, on est dans un art éphémère.
Complètement annulée.
Et on verra cet été si elle peut être reprise. Ouais. Mais il faut qu'on soit clair.
Vous fermez jusque l'été prochain. Vous faites une croix sur cette saison, en clair.
C'est même pas ça. C'est que j'ai pas le choix. Il faut être réaliste. Vous savez, il faut que les gens comprennent, entendre la voix des artistes. On a beaucoup entendu la voix des directeurs de théâtre, des directeurs du festival qui ne font en fait que gérer des budgets. Moi, j'ai des programmations. Un artiste, c'est quelqu'un comme un sportif qui se prépare. C'est pas juste on répète dans les théâtres comme ça. Là, une création, c'est un long processus qui a une progression de travail, exactement comme un sportif qui doit se préparer pour arriver le jour J. Mais on ne reporte pas la compétition comme ça, dans 15 jours, dans un mois, dans deux mois. Surtout nous qui avons un travail très spécifique avec les chevaux, donc qui est très particulier, qui est très éphémère et très délicat. C'est un long processus. On n'est pas des putes à qui on autorise à faire le trottoir. Je veux dire, on peut pas comme ça dire balancer un chiffre du 7 janvier maintenant. Pourquoi le 7? On n'est pas dupes. Tout le monde sait très bien que le 7 janvier, il y aura forcément plus de cas que maintenant, puisqu'il va y avoir les fêtes avant. Ça paraît évident. Qu'on prenne l'exemple sur Madame Merkel, au moins un chef d'État qui a le courage de dire franchement les choses et sans passer par des petits chemins comme ça et qui dit carrément voilà, jusqu'à nouvel ordre, c'est fermé, on en reparlera plus tard. Ça, c'est un langage clair qui permet de s'organiser.
Oui. Moi, je suis pas vous en voulez au gouvernement d'avoir avancé cette date du 15 décembre, puis de l'avoir, repoussé, on le comprend.
C'est de l'incompétence. Je veux dire, je sais pas, Madame la ministre, elle est entourée par peut-être un cabinet d'énarques qui ne sait même pas ce que c'est que la création du spectacle vivant. Il faut être un peu réaliste, quoi. Alors, c'est le président aussi. C'est un jeu. Vous savez, tout ça, c'est un jeu médiatique qui profite à tout le monde, qui permet de garder un suspense. On a comme des enfants, on leur dit attention, vous aurez peut-être si, mais non, ça marche pas comme ça. Il faut avoir le courage d'affronter la situation. Et quand je dis le courage d'un politique, c'est de dire oui, voilà, c'est la merde, ben on vous le dit, on prétend pas vous lancer une petite carotte de temps en temps.
Mais vous comprenez l'argument sanitaire, vous l'entendez, l'argument sanitaire de ces chiffres qui finalement ne baissent plus ou moins que prévu, ce virus qui regagne du terrain.
Non, ça, moi je suis pas compétent là-dessus. D'abord, je comprends pas le nombre de cas, ça faudrait qu'on m'explique parce que c'est une question de pourcentage statistique. De plus en plus de gens se font tester, d'abord parce qu'il y a des tests, ensuite parce qu'il va y avoir les fêtes. Donc mathématiquement, il y a plus de cas qui sont révélés. Ça me paraît, enfin moi de mon petit point de vue, ça me paraît assez logique, c'est-à-dire que c'est plus les gens se font tester, plus on révèle des cas positifs qui ne se connaissaient même pas.
Vous comprenez le fait qu'il fallait vous fermer pour éviter les rassemblements de personnes ou c'est quelque chose que vous n'entendez pas?
Le seul chiffre qui m'importe, parce que celui-là, il est éminemment respectable vis-à-vis du personnel soignant et des hôpitaux, c'est la surcharge dans les hôpitaux. C'est le seul chiffre qui compte. Voilà, si ce chiffre-là est au rouge, tout le monde se tait et on confine. Voilà, pas pour moi, je suis pas. Mais voilà, le problème n'est pas là. Le problème est d'avoir une vraie clarté politique et d'avoir le courage d'affronter les choses. On peut pas prendre les gens. Le président de la République prend les gens un peu comme des enfants. Voilà, on vous tend une petite carotte. Peut-être on leur parlera le 7. Si, mais non, tout ça, c'est un jeu pour faire passer. On sait très bien pour faire passer l'ouverture des magasins, l'ouverture de ce qui produit beaucoup d'argent et d'avoir la petite carotte de la culture comme ça.
Votre situation économique, Bartabas, comment vous allez tenir fermé jusqu'à l'été prochain? Vous avez
oui,
de
moi,
quoi
ce qui m'intéresse
tenir,
de dire, c'est qu'on est face à un président qui humilie depuis des années les ministres de la culture les uns après les autres. Moi, je serais à la place de Madame Bachot, il y a longtemps que j'aurais démissionné, quoi. Parce que je veux dire, on peut pas comme ça se humilier la culture alors qu'on est un pays que tout le monde nous envie, hein. Attention, parce que vous savez, moi, j'ai beaucoup d'amis dans d'autres pays, que ce soit d'Europe ou en Angleterre ou à Cuba. Je peux vous dire qu'ils considèrent les artistes français comme des privilégiés. Ça, c'est vrai. Mais voilà, mais on peut pas détruire tout ce qu'il a fallu des décennies à construire.
Juste une toute dernière question, Bartabas, pardon. Quelle est votre situation économique aujourd'hui? Est-ce que les aides qui sont versées, la prolongation des droits des intermittents pour vos artistes, est-ce que tout cela va vous suffire à tenir jusqu'à l'été prochain?
Évidemment qu'il y a des aides. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans ce discours-là. Bien sûr, on prétend, voilà, il y aura des aides, on sera soutenu. Bon, peut-être, je ne sais pas. C'est pas vraiment ça le problème. Vous savez, nous.
Non, la question, c'est ce que ça suffit.
C'est le travail, c'est la motivation du travail quotidien qui compte. Vous savez, voilà, pour moi, l'acte de créer, la joie de créer, c'est le moteur qui nous fait vivre, quoi. Voilà, mais le travail quotidien, c'est l'essence qu'on met dedans, quoi. Donc, encore heureux qu'on puisse avoir un travail quotidien pour alimenter ce rêve. C'est tout. Je veux dire, il n'y a pas de. Mais c'est, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans la manière.
On a bien entendu.
Il est dans la manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme ça à nous prendre pour, je veux dire, voilà, des putes à qui on autoriserait de descendre sur le trottoir ou pas à telle date. Mais non, je veux dire, c'est un long. Imaginez les sportifs. Si un sportif de haut niveau, deux jours avant la compétition, on lui dit votre compétition est annulée. Et elle est reportée à dans 15 jours et dans 2 mois. Alors là, ce serait peut-être pas pareil, quoi.
On entend votre colère et votre message.
Il n'a pas lieu en public, mais il a lieu quand même. Hein.
Barthabas, merci beaucoup. On entend évidemment votre colère, votre forte lassitude, voire votre écœurement ce matin sur Europe 1. Et le Premier ministre, tout à l'heure, qui sera dans ce studio à
8h15, bon matin, ça met en forme, voilà.
Face à Sonia Mabrouk, aura l'occasion de répondre à cette colère du monde de la culture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Je vous remercie.
Bonne journée à vous. Europe 1. Et l'innovation du jour à suivre avec Anissa Mbila. À tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h48 sur Europe 1. Fini le confinement en ce 15 décembre, mais voici le retour du couvre-feu dès ce soir, 20h et jusqu'à 6h du matin. Il ne sera plus possible de sortir faire ses courses ou de faire du sport dans cet intervalle. Emmanuel Macron valide l'idée d'un référendum pour inscrire la protection de l'environnement et du climat dans la Constitution. Décision annoncée hier aux 150 citoyens de cette convention pour le climat. Et puis aux États-Unis, Joe Biden, officiellement désigné par les grands électeurs, 46e président des États-Unis. Il sera investi le 20 janvier. Il appelle dans un discours cette nuit à tourner la page et appelle le pays à s'unir pour soigner les États-Unis. Bonjour Anissa Mbila.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour dans la tendance de ces maisons écologiques. On a trouvé une nouvelle façon de construire rapidement et bon marché. Fabriquer des maisons qui se replie sur elle-même. Alors expliquez-nous.
Oui, c'est assez malin. Il faut imaginer un cube en bois de 2,50 m sur 3, donc assez petit et facile à transporter sur une remorque. Mais une fois posé sur un terrain, eh bien, le petit cube va se transformer en une maison tout confort de 15 à 47 mètres carrés. Et en fait, c'est parce que le toit et une partie de la structure se sont repliés à l'intérieur, un peu comme une cocotte en papier. Hein. Et en les dépliant, eh bien, on arrive à reconstruire une maison en bois qui fait le triple du volume de départ. On vous a mis une petite vidéo sur le hashtag Europe 1 pour voir à quoi ça ressemble. Et en plus, il n'y a besoin que 3 heures pour tout monter, raccordement compris, ce qui permet d'installer un petit hébergement complet n'importe où, très rapidement.
C'est fascinant, ça coûte cher. On a une idée du prix au mètre carré ?
Oui, bah c'est comme les mini-maisons. Hein. On est au-dessus, au-dessous des 1000 euros le mètre carré, quasiment deux fois moins que dans la construction classique, donc c'est vraiment pas cher. Et surtout, bah, ça lève une contrainte, pas mal de contraintes de ces tiny house, hein, ces mini-maisons actuelles, dont vous savez peut-être, la forme, la taille, le poids sont limités par la remorque qui les transporte, alors qu'avec une structure pliante, eh bien on a beaucoup plus de souplesse dans la construction, et dès qu'il faut la déplacer, hop, on la replie sur le camion et on déménage. C'est une innovation qui nous vient de Lettonie, de la société Brett House. Alors, elle n'est pas limitée à ces fameuses tiny house, la mini-maison. On s'y intéresse également pour l'habitat d'urgence après une catastrophe naturelle, par exemple, ou pour des structures ou des salles temporaires en bois. Et ça nous changera des vilains préfabriqués qui sont utilisés aujourd'hui.
La mini-maison pliante et déplaçable aujourd'hui dans l'innovation du jour. Merci Anissa Mbila. 6h51 et nous ouvrons votre revue de presse internationale avec le réseau des correspondants d'Europe 1 partout dans le monde. On commence en Grande-Bretagne. Bonjour Anaïs Cordoba.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux ce matin ?
Alors, à la une de la presse britannique ce matin, les restrictions maximales imposées à Londres et au sud-est de l'Angleterre à cause d'une propagation exponentielle du Covid dans ces régions. Une mutation du coronavirus peut être responsable de cette recrudescence de l'épidémie, titre le Times. En effet, une nouvelle souche du virus a été identifiée chez 1000 patients en Angleterre. Elle est actuellement à l'étude. Le Daily Telegraph rapporte l'amertume des restaurants, bars et théâtres qui vont devoir fermer leurs portes quelques jours seulement après les avoir rouvertes. Enfin, Noël est-il menacé ? Interroge plusieurs quotidiens qui font état des inquiétudes de certains scientifiques et élus qui ne jugent pas raisonnable que les Anglais puissent se réunir à trois foyers du 23 au 27 décembre, comme cela a été autorisé. Mais selon la presse, pour le moment, le gouvernement n'a pas changé d'avis.
Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1. Nous allons chez nos autres voisins en Italie à présent. Bonjour Blandine Huguenet.
Bonjour Sébastien.
De quoi parle-t-on dans la presse ?
Eh bien, on parle ici du geste de protestation de Corrado Augias contre la France. Ce célèbre écrivain italien est allé rendre sa légion d'honneur à l'ambassade française, écrit le Corriere. Ce geste grave et symbolique, explique la Vénérée, c'est pour dénoncer la distinction du président égyptien par la France. Emmanuel Macron lui a remis la légion d'honneur la semaine dernière. Dans la Repubblica, l'intellectuel italien se confie. Pour lui, pas question de partager cet honneur avec un chef d'État qui s'est rendu complice d'atrocités criminelles. Corrado Augias fait référence à l'affaire Giulio Regeni, précise Il Post, cet étudiant italien enlevé, torturé et assassiné en 2016 en Égypte. Alors Abdel Fattah al-Sissi, décoré en secret par l'Élysée, en Italie ça ne passe pas, signale le globaliste, et l'indignation prend de l'ampleur. Selon Il Fatto, au nom du respect des droits de l'homme, trois autres personnalités italiennes ont aussi décidé de restituer leur légion d'honneur à la France.
Blandine Huguenet à Rome pour Europe 1. Nous allons terminer en Espagne, à Barcelone. Bonjour Henri de Laguérie.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une chez vous ?
C'est l'affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions Barcelone-PSG. Les deux clubs entretiennent des rancœurs sportives et économiques, écrit El País. Il y a cette fameuse remontada et ce 6-1 au printemps 2017 infligé par les Catalans aux Parisiens. Mais il y a aussi ce transfert quelques mois plus tard de Neymar vers le PSG, un départ qui est resté en travers de la gorge des supporters du Barça. C'est la première fois que le Brésilien jouera contre ses anciens coéquipiers, note la Vanguardia. Ça s'annonce très compliqué pour Barcelone, estime Sport. Les Catalans vivent une saison difficile avec des blessures, une inquiétante 8e place en championnat et un Lionel Messi moins performant. Le PSG est légèrement favori, avance le journal. Le match aller aura lieu à Barcelone fin février. S'il n'y a toujours pas de public dans les stades, le Camp Nou risque d'être beaucoup moins impressionnant pour les Parisiens, s'inquiète Mundo Deportivo.
Ouais, la date est cochée pour les supporters parisiens. 16 février, match aller à Barcelone. Barça-PSG pour essayer de prendre cette revanche sur cette fameuse remontada de 2017. Merci Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 en Catalogne. Nous étions à Barcelone, à Rome et à Londres ce matin avec nos correspondants partout dans le monde.
Europe 1.
La météo et le journal de 7h à suivre. Mathieu Béliard s'installe, c'est le 7-9 qui démarre avec, je vous le rappelle, Jean Castex comme invité exceptionnel. A tout de suite sur Europe 1. Je vous souhaite une très belle journée en ce 15 décembre. Il est 6h57. Tout de suite, c'est le 7-9 de Mathieu Béliard qui démarre. Moi, je vous retrouve à 5h du matin demain pour vous informer. C'est tôt, mais vous allez voir, c'est bien. Venez.
C'est très bien. Dès 5h, 5h moins 2, moins 3, même si je dis pas
avant.
De bêtises. Sébastien Krebs, merci d'avoir réveillé nos auditeurs depuis 5h moins 2. Ce matin, bonjour à toutes et à tous. Mardi 15 décembre 2020 sur Europe 1. Vous écoutez Le Monde Changé.
Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez Le Monde Changé.